Vous écoutez
RMC.
7h sur RMC et RMC Story à la télé.
RMC, Apolline Matin.
Bon réveil à tous. Tout de suite, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des tracteurs ce matin au pied de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Les agriculteurs en colère sont à Paris malgré l'interdiction de manifester. Après la neige, le vent, avis de tempête sur un large quart nord-ouest en vigilance orange, alerte rouge dans la Manche avec des rafales à plus de 160 km/h attendues dans le nord du département. Et puis vous entendrez dans ce journal le témoignage de Christine, 72 ans, cambriolée et violée chez elle, son agresseur, un SDF sous OQTF de 32 ans, a été interpellé.
Les agriculteurs de la coordination rurale à Paris ce matin.
Ils ont bravé l'interdiction de se rassembler dans les rues de la capitale, déterminés à rappeler leur colère contre la gestion de la dermatose nodulaire par le gouvernement, opposé aussi à l'accord avec les pays du Mercosur que l'Union européenne espère signer demain. Une petite dizaine de tracteurs a pu se rendre au cœur de la nuit au pied de la Tour Eiffel. D'autres ont réussi à gagner les Champs-Élysées ce matin autour de l'Arc de Triomphe. En direct ce matin, notre envoyé spécial Romain Houg avec une cinquantaine d'agriculteurs arrivés très tôt ce matin sur place.
Oui, ils sont arrivés vers 4h30, 5h du matin et l'image est plutôt saisissante. Il y a cette quinzaine de tracteurs postés vraiment au plus près de l'Arc du Triomphe sur la place de l'Étoile, une place désormais bouclée par les forces de l'ordre présentes en nombre. Ils viennent d'un peu partout en France, en majorité du sud-ouest, de Haute-Garonne, de la Haute-Vienne. Certains sont même partis dès le début de la semaine pour rejoindre à bord de leur tracteur la capitale. L'idée, c'est de se faire entendre, de se rapprocher au plus près des institutions pour faire passer leur message. Écoutez, José Pérez, il est le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
Monter à Paris, monter à la Tour Eiffel, c'était symbolique, quoi. Les agriculteurs sont vraiment en souffrance et ils sont prêts à tout pour s'en sortir, quoi. Donc, et si monter à Paris, ça peut les permettre de trouver des solutions et ça peut permettre d'être entendus. Mais voilà, c'est pour ça que les agriculteurs sont là aujourd'hui. On veut qu'il y ait une réponse.
Des réponses sur la gestion de la dermatose nodulaire, sur le Mercosur. Voilà ce qu'ils attendent du gouvernement. Quant au reste de la journée, pour l'instant, il est très incertain. Il n'y a pas vraiment de plan. Ce que me disait José Pérez, c'est qu'il y a plusieurs centaines de tracteurs qui convergent en ce moment vers la région parisienne. Certains sont empêchés d'accéder à Paris par les forces de l'ordre. L'objectif principal, c'était de réussir vraiment à se rapprocher au plus près de l'Arc de Triomphe, dans le calme. C'est chose faite et pour eux, c'est déjà une première victoire.
Romain Houg en direct donc de l'Arc de Triomphe. Notez que dans une grosse demi-heure maintenant, Karine Duc, qui est la coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne et qui est présente autour de ces tracteurs en haut des Champs-Élysées, sera en direct avec nous sur RMC. Il est 7h03.
Le vent succède à la neige. La tempête Goretti va déferler sur une bonne partie du nord-ouest. Alerte rouge dans la Manche pour la nuit prochaine avec des rafales à plus de 160 km/h. C'est le plus haut niveau d'alerte, l'alerte rouge. 29 autres départements sont eux en vigilance orange. Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Et les communes de ces régions de s'organiser à l'approche de la tempête, Alfred Orange.
À commencer par Fécamp, en Seine-Maritime, où les rafales pourraient atteindre les 120 km/h et les vagues dépasser les 5 mètres. Le maire David Roussel multiplie les arrêtés pour cet après-midi.
C'est la fermeture de nos parcs et jardins et d'interdire également la circulation à proximité du front de mer, de la digue promenade, et d'évacuer les véhicules qui sont à proximité du front de mer pour éviter tout accident.
Dans le Finistère, la ville de Morlaix ferme aussi square et cimetière dès aujourd'hui, redoutant des chutes d'arbres, une prudence qui s'étend aussi au train. La SNCF annonce la suspension de toute circulation ferroviaire en Normandie dès ce soir et jusqu'à demain. Même précaution dans les Hauts-de-France où aucun TER ne circulera demain matin. Mesure prise pour garantir, je cite, la sécurité des voyageurs et du personnel. La SNCF précise dans le même temps que tous les usagers touchés pourront se faire rembourser ou échanger leurs billets sans frais.
Et ce matin, trois départements sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas, les Deux-Savoie et le Vaucluse. On en vient à cet homme interpellé dans les Yvelines, soupçonné de viol et d'au moins 6 cambriolages. Un SDF de 32 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, confondu par son ADN retrouvé au domicile de sa dernière victime le mois dernier. Christine, 72 ans, elle a choisi RMC pour témoigner ce matin au micro de Julie Brault.
Le visage creusé par la fatigue, Christine garde les yeux rivés sur sa porte-fenêtre. C'est par là que son agresseur s'est introduit chez elle avant de la projeter sur le sol.
C'était quelqu'un de très violent, ça je vous le confirme. 3 semaines après, c'est toujours très, très compliqué. C'est encore très frais.
Séquestrée, ligotée, puis violée, la retraitée de 72 ans a vécu un véritable calvaire pendant de longues minutes.
Pour l'instant, c'est le soutien de mes enfants et de mes amis qui me permettent de tenir le choc.
Malgré de nombreuses séquelles physiques et psychologiques, la septuagénaire se dit aujourd'hui soulagée depuis qu'un homme de 32 ans, interpellé lundi dernier, a reconnu les faits en garde à vue.
Heureusement qu'ils l'ont arrêté parce que j'aurais peut-être pu de nouveau avoir de sa visite, disons.
L'ADN du suspect a également permis de le relier à plusieurs cambriolages et à un autre viol commis en 2024. Des affaires qui pourront enfin être élucidées, espère Christine.
Ça me réconforte de me dire que ça aura servi à d'autres. Comme quoi, il ne faut pas hésiter surtout à dénoncer. C'est important pour pouvoir arrêter de tels criminels.
Le suspect, titulaire d'un passeport algérien, est en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF depuis près de 3 ans. Mais il n'avait jusqu'ici jamais été arrêté pour être expulsé.
Retour au télétravail pour les 1200 salariés du site Orange dans le quartier de Saint-Mauron à Marseille, visé par des tirs en début d'année. Le bâtiment qui se trouve à proximité d'un point de deal avait déjà fermé ses portes une première fois pour 15 jours en novembre. Sarah Knafo, 6e candidate déclarée pour la course à la mairie de Paris, l'eurodéputée Reconquête, partie d'Éric Zemmour, en a fait l'annonce hier soir sur TF1. Elle entre en concurrence avec les deux autres candidats de la droite, Thierry Mariani pour le RN et Rachida Dati pour les Républicains, avec lesquels elle se dit prête à collaborer en cas d'échec.
Je serai prête à travailler avec tous ceux qui partageront mon projet. J'espère que les Parisiens me feront confiance à moi parce que je pense vraiment avoir le meilleur programme pour Paris. Je le publierai d'ailleurs dans les tout prochains jours. Ce sera le programme le plus transparent, chiffré, rigoureux, comme j'ai appris à le faire. Mais si les Parisiens choisissaient quelqu'un d'autre, je serai tout à fait constructive pour faire gagner les idées qui sont les miennes. Et encore une fois, j'espère qu'ils me choisiront.
Et réaction dans la foulée du candidat de la gauche hors LFI, Emmanuel Grégoire, qui dénonce l'ouverture d'une alliance assumée entre la droite extrême et l'extrême droite.
7h07 sur RMC, les adieux de Saint-Tropez à Brigitte Bardot hier.
1 millier de personnes rassemblées dans la ville hier pour suivre la retransmission de la cérémonie religieuse sur 2 écrans géants, des admirateurs qui ont ensuite rejoint le cimetière marin face à la mer pour un moment d'émotion et de recueillement sur la tombe de l'actrice Anna Jojard.
À peine la tombe scellée, la foule se presse pour voir l'endroit où repose désormais Brigitte Bardot.
Je ne m'attendais pas à ça. Elle est très fleurie.
Extrêmement fleurie. Et ils n'ont pas amené tout. Hein. Elle est à son image. C'est elle qui a demandé d'avoir que des marguerites.
Des fleurs, mais aussi des portraits d'elle entourés d'animaux. Annie vient de déposer 2 cadeaux sur la dalle couleur crème.
Un écureuil et un cadre avec les animaux. Et elle qui monte les escaliers pour partir vers l'au-delà.
Au milieu des nombreux admirateurs, on trouve aussi des visiteurs à 4 pattes.
Ils sont plus légitimes que nous, aujourd'hui.
Cathy est la maîtresse de Toumi, un Malinois qu'elle a adopté à La Réunion.
Moi, j'ai connu Brigitte, j'avais 10 ans. Je suis végétarienne depuis cette époque et je suis tellement contente d'être là. Puis j'ai vu mon chien courir dans la colline pendant qu'il y avait tous les officiels qui parlaient et je trouvais que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire.
Alors après des obsèques célébrées en musique, Cathy, comme tant d'autres, espère que le combat de la star pour les animaux continuera.
Allez, merci Brigitte.
Et puis du foot ce soir avec un choc un peu spécial entre le PSG et l'OM, trophée des champions délocalisé au Koweït. Coup d'envoi 19h, c'est à vivre sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 et dans un instant on va parler de vos salaires. On va parler de vos salaires, est-ce que vous serez augmenté cette année? Plus d'augmentation individuelle, moins d'augmentation collective, c'est ce qui ressort de votre étude annuelle. Khalid Ait Mouloud, bonjour, vous avez interrogé plus de 900 entreprises françaises et elles prévoient d'augmenter leurs salariés en moyenne de 3,1% cette année, oui, mais pas d'augmentation générale et indifférenciée. Ça c'est quasi terminé, vous nous le dites dans un instant, c'est votre parti pris. J'attends aussi vos témoignages au 32-16. Dites-nous si vous avez été augmenté, vous êtes patron, vous êtes salarié. Racontez-nous vos négociations, je vous attends au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. On parle salaire parce qu'en 2026, les augmentations de salaire, elles se feront au mérite. C'est ce qui ressort de l'étude que vous avez menée auprès de plus de 900 entreprises françaises. Khalil Ait Mouloud, vous êtes directeur de l'activité enquête et rémunération pour le cabinet de conseil WTW. Alors oui, il y aura des augmentations cette année. En moyenne, les patrons que vous avez interrogés prévoient des augmentations de 3,1%. sauf que ce ne seront plus des augmentations générales et indifférenciées, non. Ce sera désormais au mérite de chacun individuellement.
Exact, on a effectivement ce changement de paradigme ou de tendance pour l'année 2026. D'un côté, avec des budgets d'augmentation salariale qui restent stables par rapport à l'année 2025, mais stabilité ne veut pas dire que les augmentations sont immobilisées en l'état. Reste que dans la distribution de ces budgets, on passe d'une logique de rattrapage de l'inflation, notamment avec les augmentations collectives ou générales, vers un curseur mis de manière plus significative sur les augmentations individuelles ou au mérite.
Donc, ça veut dire effectivement que c'est une autre façon d'encourager, en quelque sorte, ces salariés. Désormais, il faudra justifier individuellement, mais ce sera la carotte, quoi. Est-ce que c'est une perte de pouvoir aussi pour les syndicats ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de collectifs dans les entreprises ?
Il y a toujours du collectif dans la négociation, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. C'est toujours une question de dialogue entre les entreprises, les employeurs et les représentants du personnel ou les syndicats, mais effectivement les entreprises vont avoir tendance à s'adapter à un contexte qui est d'un côté incertain, de l'autre côté difficile aussi d'un point de vue emploi pour concilier les deux et trouver un meilleur équilibre entre collectif et individuel.
Et vous êtes à nombreux à nous appeler au 3216 pour nous raconter justement vos négociations, nous dire comment ça se passe. Il y a Jérémy qui est chauffeur et qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Est-ce que vous allez être augmenté cette année ?
On a été augmenté cette année.
Ouais.
Et pas
combien
grâce à moi.
Grâce au collectif ?
Non, pas du tout. C'est un collègue qui a demandé sur le plan individuel. Et notre patron a estimé que non, il ne pouvait pas l'augmenter parce que ça ferait des disparités par rapport aux anciens. Et moi, je ne suis pas trop d'accord sur ce plan-là. En plus, mon collègue, il demandait juste un nivellement de son salaire par rapport aux autres. On a été augmenté de 12,50 à 13,30.
D'accord.
Et moi, je suis assez d'accord avec mon collègue dans le sens où, au fait, je préfère le plan individuel parce que les anciens de la boîte, en général, ils ont leur petit poste bien tranquille dans l'entreprise et ils font pas de polyvalence. Et le problème, c'est que nous, les chauffeurs chez nous, on est très axés à la polyvalence. Voilà, vous voyez, ce matin, je fais du déneigement. Cet après-midi, je vais aller livrer du granulé de bois. Demain, je vais peut-être camion, je vais faire du fioul. Et ça, le problème, on n'est pas récompensé là-dessus sur la polyvalence. Et moi, je suis plutôt sur le plan individuel que sur le plan...
Vous trouvez collectif. Que c'est à chacun de se battre aussi pour que ça marche et pour faire plus, quoi.
Ben oui, mais le problème, c'est que c'est très compliqué parce qu'on nous sort à chaque fois ce plan collectif, les anciens, ça va faire des histoires. Ça fait des histoires.
Mais vous redoutez pas l'injustice, le sentiment d'injustice parfois ?
Ben non, ça peut peut-être aussi faire bouger les anciens qui veulent pas bosser aussi. Moi, j'aimerais bien rester tranquille sur mon petit poste, faire du 6h30 midi, ouais. Reprendre à 13h et finir à 16h30 et puis rentrer chez moi. Non, nous, on a toujours quelque chose à faire et on le fait pour l'entreprise. On le fait pas pour nous sur le plan individuel. Et du coup,
je trouve ça très intéressant, même presque philosophiquement, dans l'approche aussi du travail, de la rémunération, de la motivation individuelle. Jérémy, je voudrais que Khalil puisse vous répondre là-dessus. C'est cet état d'esprit-là qui va être davantage mis en avant par les patrons désormais.
Tout à fait, c'est un sentiment qu'on peut retrouver beaucoup chez les salariés et ça oblige aussi les employeurs, un, à être très solides sur leur politique de rémunération, le rationnel qui est derrière, mais aussi sur l'histoire qui est racontée, sur le message qui est communiqué aux salariés, sur le pourquoi on attribue des augmentations individuelles ou générales, les augmentations individuelles...
Pourquoi on augmente
c'est pour
un tel et pas tel autre, par exemple, quand on entend Jérémy qui dit « Ouais, mais moi, je me donne énormément de mal, j'accepte de faire l'épeler le fioul », ça veut dire que ça justifie à ses yeux aussi d'avoir une rémunération supplémentaire par rapport à d'autres qui resteraient un peu plus tranquilles dans un boulot pépère. Est-ce que ça, c'est audible dans l'ensemble de l'entreprise ?
Aujourd'hui, c'est de plus en plus audible au sein des entreprises. Au-delà des augmentations, il y a aussi la question du travail qui est occupé, du poste qui est occupé, la question de la performance aussi qui ressort beaucoup, qui sont des facteurs qui sont bien évidemment pris en considération dans la réflexion des entreprises. C'est certainement pas toujours aussi bien perçu. Et on va avoir aussi cette question de la directive européenne sur la transparence des rémunérations qui va beaucoup plus obliger les entreprises à être claires sur qu'est-ce qu'un poste, qu'est-ce qu'une bonne performance et qu'est-ce que ma politique de rémunération.
C'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, elle va être appliquée cette année, cette directive, et elle invite à davantage de transparence. Est-ce que ça veut dire qu'on va savoir chacun qui gagne quoi dans l'entreprise ou est-ce que ce sera quand même un peu anonymisé? Quelle va être véritablement la transposition de cette directive?
Évidemment, on a des questions de protection de la confidentialité des données. Donc, ce qui est prévu dans le cadre de la directive européenne sur la transparence des rémunérations et sa transposition attendue pour juin 2026, c'est l'obligation pour les employeurs de communiquer sur un poste égal pour l'ensemble des salariés qui occupent ce poste-là, la moyenne des rémunérations qui sont appliquées. Et en différenciant d'un côté la moyenne des femmes et la moyenne des hommes, en évitant d'avoir des écarts qui ne sont pas justifiés par des critères objectifs et factuel. Donc ça, c'est des obligations qui vont entrer en vigueur très bientôt.
Et ça veut dire effectivement que les entreprises vont devoir justifier davantage de la distinction entre la rémunération des uns et des autres. Merci beaucoup hein, Khalil Haït Mouloud d'être venu nous expliquer tout cela. Donc directeur de l'activité enquête et rémunération pour le cabinet de conseil WTW. Et merci à Jérémy pour son témoignage. Comme lui, vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin, le 32-16. Il est 7h19. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, à 19h, ce soir, le PSG affronte l'OM dans le trophée des champions et ce match, il sera au Koweït.
Oui, et pour l'occasion, je vais vous raconter un des matchs les plus fous de l'histoire du football, un match rocambolesque qui s'était justement produit au Koweït.
Au Koweït en Espagne, mais c'était un France-Koweït 1982. L'histoire de ce match fou, ce sera dans un instant avec Arthur. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce soir, trophée des champions, l'Olympique de Marseille affronte le PSG. Mais attention, pas n'importe où, puisque ce match aura lieu à Koweït City, la capitale du Koweït.
Oui, et ça nous rappelle des souvenirs, hein, puisqu'il y a un peu plus de 40 ans, l'équipe de France avait affronté l'équipe du Koweït au cours d'un match complètement rocambolesque.
Qu'est-ce qui s'était passé de si spécial pendant ce match?
Alors, a priori, c'était une rencontre anodine. Nous sommes en 1982. Nous jouons la Coupe du Monde qui se passe en Espagne. La France affronte donc le Koweït. Un match sans intérêt, un peu plan-plan. On mène 3-1, c'est la 80e minute. Platini fait une ouverture pour Alain Giresse qui marque et aggrave le score. Ça fait 4-1. Sauf que là, les joueurs koweïtiens se mettent à protester.
Protester pour quelle raison?
Eh bien, ils s'énervent parce qu'ils disent avoir entendu un coup de sifflet depuis les tribunes. Or, ils ont cru que ce coup de sifflet venait de l'arbitre pour signaler un hors-jeu. Donc la défense du Koweït s'est évidemment arrêtée de jouer, ce qui expliquerait le but de Giresse. Les Koweïtiens ne décolèrent pas. Et là, un truc complètement fou se produit. Un homme descend des tribunes et débarque sur la pelouse.
Qui était cet homme?
Alors cet homme, c'était le cheikh Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, qui était à la fois le frère de l'émir du Koweït et le président de la Fédération du football koweïtien. Un homme très puissant. Bref, ce cheikh va voir l'arbitre et lui aussi se met à râler. Il réclame l'annulation du but français. Il insiste, ça fait tout un drame. Et coup de théâtre, l'arbitre cède, lui obéit et annule le but.
Annule le but? Alors tu dis que ça provoque aussi un scandale.
Ah bah oui, énorme, ça ne se produit jamais. Le coach français Michel Hidalgo est hors de lui. Il se lève pour aller voir l'arbitre. Là, la police espagnole l'en empêche. Bref, c'est le drame. Finalement, les Français se font justice eux-mêmes avec un quatrième but avant la fin du match.
Mais qu'est-ce qui a pris à l'arbitre?
Ah bah, tout simplement, il a cédé à un coup de pression diplomatique, à un truc délirant. Alors je vous rassure, il sera radié à vie du corps arbitral. Quant au cheikh, il présentera ses excuses en 1990 pour se faire pardonner. Il invite en grande pompe toute l'équipe de France au Koweït pour une série de matchs amicaux. Alors c'était un séjour un peu lunaire hein, où les joueurs français auront le droit à tous les honneurs. Ils vont même s'essayer au tir à la Kalachnikov contre les boîtes de conserve et c'était oui, un peu spécial.
Un bel honneur.
Voilà, exactement. Bref, c'était une réconciliation, mais de courte durée, puisque le cheikh Al-Sabah va connaître une fin tragique. Hein. Cette même année 1990, l'armée irakienne de Saddam Hussein envahit le Koweït. C'est le début de la guerre du Golfe et le cheikh va être tué pendant un des premiers assauts.
Incroyable histoire. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Match ce soir à suivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC à partir de 19h et donc en direct de Koweït City. C'est l'heure d'accueillir Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure, je reçois l'ancien ministre du budget, le maire de Meaux, Jean-François Copé.
Oui, le JFK français, JFC, Jean-François Copé. Et si c'était lui, le futur président? Bon, peut-être pas, mais si au futur ministre. Oui. Bon, peut-être pas non plus. Bon, en tout cas, c'est votre futur invité ce matin dans le face-à-face. C'est déjà pas mal. C'est aussi le futur maire de Meaux, puisqu'il brigue un sixième mandat. En fait, Meaux a deux traditions. Son Brie, depuis le XVIe siècle, et son Jean-François Copé à la mairie, depuis 2005. Vous savez comment on appelle les habitants de Meaux?
Les
Meldois. Les Meldois. Tu te maries là-bas, on te dit, tiens, voilà ton mari Meldois, c'est super. Que de lol. C'est Jean-François Copé le sujet. Hein.
Ah oui.
Vous reviendrez avec lui sur les dossiers chauds. Donald Trump notamment qui veut envahir le Groenland, un endroit où il fait froid et il ne se passe rien. Et qui d'autre que Jean-François Copé, qui est lui-même maire d'une ville où il fait froid et où il ne se passe rien, pour analyser la situation. On parlera aussi des agriculteurs qui s'apprêtent à bloquer le pays, mais qui est déjà à moitié bloqué par la neige. C'est con, ils vont faire l'autre moitié, je ne sais pas. D'ailleurs, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, reconnaît que l'événement neigeux a été un peu sous-évalué. Il est vice-président de la région PACA, lui. Donc la neige, il connaît pas, en fait. C'est pas son truc. Il a, j'appelle tous les automobilistes à faire preuve de vigilance en cas de... comment on appelle les confettis glacés, là.
De la neige, monsieur le ministre.
Ah, merci, Jacqueline, c'est ça, de la neige. Et ne sont autorisés à circuler que les titulaires de la première étoile. Bah oui, c'est seul... Ses seules références à l'hiver, à ce mec-là, c'est les bronzés fonds du skin. Ce matin, il a voulu dégivrer sa serrure, son voisin est arrivé.
Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Et oui, mais il connaît pas. Alors Jean-François Copé va sortir un livre intitulé « Quand les populistes trahissent le peuple ». Parce que voilà, lui, il sait que des gens comme Maduro, par exemple, trahissent le peuple, toujours. Ça a dû le rendre fou d'écouter votre interview de Mathilde Panot, l'autre jour, à Pauline. Parce que quand Mathilde a joué à « Ni oui, ni non, ni dictateur », c'était pas simple à entendre pour Jean-François Copé. Mathilde Panot, Nicolas Maduro, c'est un dirigeant légitime, madame. Oui, mais assimilable à un dick, c'est un dicaprio vénézuélien, madame. Beau et populaire. Non, un dicta-mère. Non, pardon. Je ne répondrai pas à cette question, madame. Elle lâchera pas le morceau, hein. Jamais. En attendant, c'est Jean-François Copé à 8h30.
J'aime beaucoup votre petit jeu. Il est 7h26. On retrouve Arnaud de Manche, évidemment, tout à l'heure à 8h20. En attendant, dans un instant, c'est la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, le département de la Manche en vigilance rouge. Tempête Goretti qui arrive en fin de journée. Des vents jusqu'à 160 km/h attendus sur les côtes. Nous serons en direct avec un marin pêcheur. Et puis à 7h40, on suit la nouvelle mobilisation des agriculteurs dans Paris ce matin. Les tracteurs sont au pied de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Élysées ou sur le boulevard périphérique. Ils occupent ce matin donc des lieux symboliques de la capitale. On sera en direct avec la vice-présidente de la coordination rurale. A tout de suite, 7h27.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un témoignage RMC très fort dans ce journal, celui d'une septuagénaire séquestrée et violée par son cambrioleur, un Algérien sous OQTF impliqué dans plusieurs affaires similaires. Les tracteurs de la coordination rurale sont entrés dans Paris cette nuit. D'autres sont prépositionnés aux abords du périphérique. Une journée d'action sous haute tension en perspective. Et puis quand une entreprise doit fermer ses bureaux à cause des règlements de compte liés au trafic de drogue, c'est la décision prise par l'opérateur Orange à Marseille. Les syndicats appellent carrément à déménager.
Plusieurs cambriolages ultra-violents en cours d'élucidation.
Grâce au courage d'une femme que l'on va entendre dans un instant, dont la plainte a permis d'identifier un suspect arrêté lundi dans les Yvelines et présenté à un juge hier soir, c'est la dernière victime de ce multi-récidiviste présumé, Guillaume Bié.
Oui, à la mi-décembre, dans un quartier pavillonnaire des Mureaux, une femme de 72 ans est subitement attaquée chez elle vers 19h par un homme qui la séquestre, lui dérobe ses bijoux et la viole. Rapidement, la victime donne l'alerte, mais quand les policiers comparent l'ADN trouvé sur place avec le fichier national, aucune identité n'apparaît. En revanche, ce même ADN inconnu avait déjà été relevé par le passé sur un autre viol à Canteleu en Seine-Maritime, ainsi que sur 6 cambriolages et 2 tentatives. Alors, grâce à un minutieux travail sur la téléphonie, les policiers de la brigade criminelle de Versailles identifient un suspect qui a reconnu les faits en garde à vue. Son ADN correspond bien aux traces relevées sur toutes ses affaires. Ce SDF de 32 ans, titulaire d'un passeport algérien, est en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF depuis près de 3 ans, mais n'a jamais été arrêté pour être expulsé.
Et cette arrestation est un véritable soulagement pour les victimes, notamment la dernière en date, Christine, dont l'agression mi-décembre a permis de remonter la piste de ce suspect. La septuagénaire témoigne ce matin au micro RMC de Julie Brault.
C'était quelqu'un de très violent, ça je vous le confirme. 3 semaines après, c'est toujours très, très compliqué. C'est encore très frais. Heureusement qu'ils l'ont arrêté parce que j'aurais peut-être pu de nouveau être, avoir de sa visite, disons. Et ça a permis de recouper sur plusieurs affaires. C'est vrai que ça me réconforte de me dire que ça aura servi à d'autres. Et c'est ça le plus important. Comme quoi, il ne faut pas hésiter surtout à dénoncer. C'est important pour pouvoir arrêter de tels criminels.
Témoignage RMC recueilli par Julie Brault.
7h33 sur RMC, ils l'avaient promis, ils l'ont fait.
Les agriculteurs sont entrés dans Paris cette nuit et ont investi les lieux les plus symboliques de la capitale avec une dizaine de tracteurs devant la Tour Eiffel, une cinquantaine sur les Champs-Élysées. D'autres sont prépositionnés aux abords du périphérique, notamment au niveau de la Porte d'Orléans où l'on retrouve Solène Leroux en direct ce matin pour RMC. Solène, vous êtes au milieu d'une dizaine de tracteurs et d'un important dispositif policier.
Oui, ici les lumières des gyrophares de la dizaine de camions de CRS tranchent avec le feu allumé par les agriculteurs pour se réchauffer, eux qui sont ici depuis 4 heures du matin, alors que des riverains se retrouvent bloqués par le barrage, que certains klaxonnent même en soutien. Certains agriculteurs sont allés se reposer dans leur tracteur pour récupérer de ces longues heures de voyage. Pour arriver ici, ils sont partis vers 23 heures hier, mais certains viennent de loin et sont partis dès mardi matin, comme Patrick. Il produit des fruits et légumes en Lot et Garonne. Il souhaite une mobilisation pacifique, mais n'oublie pas le but.
On ne nous entend pas à Paris, donc on s'est décidé de monter à Paris. Même si on nous a dit qu'on n'y arriverait pas, on est arrivé aujourd'hui à Paris. Ils sont bornés sur les lignes qu'ils ont, parce que eux, ils ont la parole d'évangile, et nous, on est des minables. Mais il faudrait qu'ils mettent les pieds sur terre, qu'ils viennent voir dans nos campagnes, qu'ils viennent voir la misère de nos campagnes. Parce qu'il y a des gens qui crèvent en campagne. Et c'est la grande majorité de la France aujourd'hui.
Une référence au suicide des agriculteurs qui endeuillent régulièrement la profession. L'objectif à cette heure est de récupérer des collègues coincés par des barrages policiers un peu plus au sud de Paris avant de rejoindre la capitale en métro. Mais pour aller où, le secret est bien gardé. Aucun agriculteur ne lâche le morceau.
Solène Leroux en direct de la Porte d'Orléans pour RMC. Notez que ce matin, une portion de l'autoroute A13 en direction de la Porte d'Auteuil est coupée par la mobilisation des agriculteurs. 7h35 à Marseille, les 1200 salariés d'Orange n'ont plus de bureau ce matin après la décision prise hier par leur direction de fermer les locaux du quartier de Saint-Mauron jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la deuxième fois depuis le mois de novembre. C'est là encore à cause du trafic de drogue et de ses règlements de compte. Des impacts de balles ont été retrouvés en début de semaine sur la façade du bâtiment. Et pour les syndicats, évidemment, c'en est trop. Ils appellent l'entreprise à faire ses cartons pour de bon et à déménager. C'est ce que réclame ce délégué syndical CFE-CGC qui souhaite rester anonyme.
Il y avait déjà une peur à l'idée de venir. Depuis novembre, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des tirs, mais c'était quand même encore à l'extérieur. Là, il y a 4 impacts de balles. Là, c'est une intrusion, en fait. C'est le bâtiment qui a été visé. Honnêtement, l'ambiance a très significativement changé. Des salariés qui ont un mélange de vraies peurs, de colère vis-à-vis de la direction et d'incompréhension, en fait. Malgré les dispositifs exceptionnels qui étaient vendus par l'entreprise, ça n'écarte pas le danger. Il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque salarié. Mais nous, en fait, on ne demande pas plus de police, on veut juste partir en fait.
7h36, à peine la neige aura-t-elle fondu qu'elle sera chassée par le vent sur le quart nord-ouest de la France avec l'arrivée cet après-midi de la tempête Goretti. La Manche a même été placée en vigilance rouge pour la nuit prochaine avec des rafales qui pourraient atteindre jusqu'à 160 km/h sur les côtes. Et face à ces phénomènes météorologiques violents, on constate souvent une forme d'impréparation, voire même des situations complètement ubuesques. Ça a été le cas hier en région parisienne où certaines universités ont maintenu les partiels du premier semestre en dépit de l'appel à limiter les déplacements lancés par la préfecture Bérangère Bocquillon.
Et certains étudiants ont pris des risques. Amandine est étudiante en première année de licence à la Sorbonne. Elle a dû prendre sa voiture hier matin pour rejoindre la gare de Rambouillet vers Paris pour tenter de passer son partiel.
Il y a des fois où la voiture a glissé. J'étais terrorisée à l'idée de conduire sur la neige. Je le voyais, de toute façon, il n'y avait personne sur la route. Et du coup, finalement, il n'y avait pas de train. Donc j'ai juste fait demi-tour et je suis rentrée chez moi.
Résultat, Amandine va devoir passer au rattrapage comme plusieurs autres étudiants de sa licence. Pour elle, c'est une injustice.
Je vais forcément passer au rattrapage et ça fout un petit peu en l'air mon année alors que c'est pas vraiment de ma faute puisque c'est juste la météo.
Plusieurs étudiants se sont mobilisés pour leurs camarades coincés par la neige. Hier matin, avant son examen, Cassandre a tenté d'aller négocier un report auprès de la direction de l'université de Cergy et là, surprise.
On a d'abord essayé de parler avec l'administration, tout était éteint, tout était vide, c'est-à-dire que personne n'était là. Sûrement, du coup, en raison des conditions météorologiques.
Aucune université n'a répondu à nos sollicitations.
Eux ont dû faire des milliers de kilomètres pour disputer leur classique. Les joueurs du PSG et de l'Olympique de Marseille s'affronteront ce soir au Koweït pour le trophée des champions. Match à 19h à vivre évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Cagnes-sur-Mer.
À 13h55 avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC comme chaque jour. Aujourd'hui, le favori, c'est le numéro 3, Captain du Liamon. L'outsider, c'est le 14, Xar.
C'était le journal d'Élise Dangean. Et Élise, vous en parliez, ça souffle énormément et notamment sur la Manche qui a basculé en vigilance rouge et à 7h38 on est en ligne avec Patrice Cauchois. Bonjour, vous êtes marin pêcheur à Cherbourg. Ça va souffler très fort toute la journée et en particulier ce soir jusqu'à 160 km/h. Département donc placé depuis 6h ce matin en vigilance rouge. J'imagine que vous ne sortez pas évidemment aujourd'hui hein.
Eh ben on va sortir un petit peu ce matin pour mettre le matériel à l'abri. Là, il y a en fait entre le coup de vent qu'il y a eu hier et la tempête de ce soir, on a un petit creux de 3h là pour travailler aujourd'hui.
Donc pour mettre le matériel à l'abri, mais non pas pour bosser quoi.
Bah en fait on va travailler parce qu'on va relever quelques filières de casiers qui sont un peu trop près de la côte et comme on attend des grosses vagues, on va être obligé de mettre tout notre matériel à l'abri pour pas le perdre.
Quoi. C'est des casiers de quoi ?
Des casiers à homard.
Des casiers à homard, Patrice. Ce vent, comment est-ce que vous allez gérer ensuite le manque à gagner potentiel ?
Eh ben, on sortira peut-être ce week-end, alors que le week-end, d'habitude, on travaille pas. Mais bon, là, c'est compliqué encore ce week-end, donc ça sera peut-être que lundi qu'on le fait.
Vous avez quand même l'impression qu'à ce point et de manière si longue, c'est-à-dire que là, vraiment, on a l'impression que la France traverse des épisodes de plus en plus compliqués là depuis 8 jours. Comment est-ce que vous voyez la perspective ? Est-ce que ce genre de situation à ce moment-là, ça vous paraît normal, classique ou assez exceptionnel ?
Eh ben, on a l'impression que d'année en année, il y a de plus en plus de coups de vent. Tout le monde rachète des bateaux un peu plus gros pour faire plus de mauvais temps, parce que ça devient de plus en plus dur avec les années.
Vous avez été obligé vous-même d'adapter le matériel ?
Oui, tout à fait. J'ai racheté un bateau plus gros il y a 2 ans là, pour pouvoir faire un peu plus de mauvais temps, parce que ça se durcit au fur et à mesure des années. Les coups de vent sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents.
Vous êtes aidé pour ça ? Quand vous êtes obligé d'acheter un bateau plus gros, plus cher, j'imagine ?
Non, on n'a pas d'aide quand on achète un bateau plus gros. On a une aide quand on se met à notre compte au début en tant que jeune pêcheur, mais après on n'a plus d'aide.
Il y en a encore assez des pêcheurs autour de vous ?
Ouais, il y en a de moins en moins. Mmh. Ça devient très très compliqué, la ressource... La ressource se raréfie, ça devient très très compliqué.
Et pour vous, c'est dû plutôt aux ressources qui se raréfient qu'aux difficultés du métier ?
Oh bah, c'est les deux. Mmh. C'est un métier qui attire plus vraiment les jeunes parce qu'il est dur. Il y a le froid, il y a les coups de vent, des mauvaises conditions de travail. Donc on a du mal maintenant à trouver des jeunes qui sont intéressés par ce métier.
Et il y en a qui vous écoutent. Vous l'aimez, vous, votre métier ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
ouais, c'est un métier passion. Hein.
Ouais, j'imagine. Donc vous leur dites que vous n'avez jamais regretté ?
Non, jamais.
Jamais regretté. Bon courage en tout cas, soyez extrêmement prudent. Soyez extrêmement prudent, Patrice, donc en direct de la Manche. 3 heures pour aller ramener les casiers à homard, mais faire attention effectivement avant que ça ne souffle davantage. Je vous rappelle donc que la Manche est placée en vigilance rouge et qu'une grande partie de l'Ouest est en vigilance orange avec des vents qui vont souffler jusqu'à 160 km/h ce soir. Donc avec la tempête qui arrive, je vous laisse donc effectivement reprendre le chemin du travail. 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ils avaient promis qu'ils rentreraient dans Paris et même si les autorités le leur avaient interdit, ils l'ont fait. Les agriculteurs sont donc au pied de la Tour Eiffel, en haut de l'avenue des Champs-Élysées, sur le boulevard périphérique. Karine Duc sera en direct avec nous dans un instant, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. L'épidémie de dermatose, mais aussi le Mercosur. On va entendre sa colère dans un instant. Il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 sur RMC et à la télévision sur RMC Story. Vous le verrez pour ceux qui nous regardent à la télévision, ces images des tracteurs qui sont rentrés en effet dans Paris. Et ça faisait quelques temps que les interdictions se multipliaient, mais vous aviez promis que vous iriez et vous avez donc réussi ce coup de force. Karine Duc, bonjour. Vous êtes la coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, mais vous êtes au moment où on se parle, où ça? Au pied de l'Arc de Triomphe?
Oui, alors déjà je suis effectivement au pied de l'Arc de Triomphe avec pas mal d'agriculteurs, une soixantaine d'agriculteurs, des tracteurs, voilà, autour de nous. Je suis plus coprésidente de la coordination rurale de Lot-et-Garonne, je suis présidente de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Et donc à ce titre-là, modestement, j'essaie de venir manifester la détresse des agriculteurs de l'ensemble du territoire, mais aussi et surtout de l'ensemble des agriculteurs de mon territoire, du Lot-et-Garonne. Donc, je suis là parce que la situation est extrêmement, des agriculteurs est extrêmement dégradée. Et malheureusement, on se serait bien passé de faire des périples de plusieurs jours avec une fatigue intense. Mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la situation qu'on avait prédit il y a 2 ans, on y est en plein. Les agriculteurs sont dans des grosses difficultés économiques pour bon nombre d'entre eux. Et écoutez, si on veut à un moment donné ne pas subir le déclin et accompagner les agriculteurs à avoir un cap plus serein.
En fait, c'est cette souffrance effectivement que vous êtes nombreux à exprimer. Vous l'exprimez donc ce matin, depuis 5h du matin, vous êtes rentré effectivement dans Paris, vous êtes arrivé notamment sous l'Arc de Triomphe. Il y a une partie de vos camarades qui sont arrivés également sur l'A13. L'A13 qui, au moment où on se parle, et c'est important pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture, l'A13 en direction de Paris est coupée, elle est coupée dans le sens province-Paris, donc l'A13, l'autoroute A13. Il y a également un dépôt de carburant qui est bloqué près de Bordeaux. La colère va monter tout au long de la journée, Karine Duc.
Bien entendu. Il faut absolument que ça suffit, les faux-semblants, ça suffit de nous balader des belles lettres pour nous dire, pour nous flatter et pour derrière nous assassiner. Laisser sans arrêt des normes franco-françaises empoisonner nos situations économiques, ça suffit. Maintenant, il faut véritablement qu'on cesse de nous balader et qu'on reparte avec des éléments réels et concrets et actés pour nos fermes. Les projets de loi qui n'aboutissent que très peu ou qui ne sont
quand
pas
vous dites,
appliqués.
Quand vous parlez de cette question des normes franco-françaises, quand vous entendez depuis 2 jours la ministre de l'Agriculture qui finit par vous lâcher du lest à la fois sur ce qu'elle appelle l'interdiction des produits, notamment d'Amérique du Sud, qui viendraient avec des restes de pesticides, quand elle dit aussi hier que finalement il n'y aura pas cette fameuse taxe carbone qui fait partie aussi des nouvelles idées, c'est-à-dire que les engrais que vous importiez depuis l'extérieur de l'Union européenne, qui sont la majorité, qui représente la majorité des engrais, hein, de fait, aurait été extrêmement et lourdement taxée. Elle promet de ne pas le faire, mais ça ne vous apaise pas.
Mais bien sûr que non, c'est que dalle. Ce sont des choses qui ne vont pas bouleverser et remettre de la santé économique et financière dans les structures. À la marge, je veux dire, effectivement, encore heureux qu'elle ait pu se battre sur ce genre de points. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de ministre de l'Agriculture, parce qu'elle serait incapable de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, il faut remettre une page blanche et enlever tout ce qui nous entrave et nous contraint en permanence, mais ce qui est déjà franco-français, puisque c'est à sa main, c'est à la main de nos gouvernants qui sont ici à Paris, c'est pour ça qu'on est là. Et ensuite, on s'occupera de...
Au fond, pour vous, le Mercosur n'est que l'étincelle de plus sur un monde agricole qui ne supporte plus les normes françaises, c'est ce que vous nous dites. La question n'est pas européenne à vos yeux, elle est française.
Au-delà du Mercosur, le Mercosur est quasiment acté, ils sont en train de nous balader, à le renvoyer d'une semaine, 2 semaines, mais qu'est-ce que c'est cette hypocrisie, encore une fois, c'est vraiment, le Mercosur représente et cristallise tout ce qui ne va pas, faire venir de la viande de l'autre bout de la planète, alors que nous, on ne peut pas la faire ici. La filière viande est en grosse difficulté par les épizooties notamment, les fruits et légumes également, mais c'est invraisemblable que ce genre de mesures qu'ils puissent encore penser, vu la dégradation que nous avons dans nos exploitations agricoles, qu'on puisse se penser que ce genre de choses puisse nous réconcilier et nous ramener dans nos fermes. Et on... ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe chez nous, ils n'ont pas conscience de l'urgence de la situation, et ils se moquent de nous. Franchement, c'est vécu comme une provocation, et ce sont des petites miettes qu'on jette par terre, et prenez-les et rentrez chez vous.
Et on entend bien, vous êtes prête à rester aujourd'hui, demain, s'il le faut.
Mais on restera, de toute façon, on a passé des jours sur les routes, donc on restera le temps qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus, on est là et il n'y a pas de problème. Moi, je veux repartir dans mon département avec tous mes jeunes et des moins jeunes qui m'accompagnent, avec vraiment des solutions. Ça suffit.
Vous ne repartirez qu'avec des solutions et des solutions concrètes, on l'a bien entendu. Karine Duc, merci d'avoir été en direct avec nous. Vous étiez donc avec cette trentaine de tracteurs qui sont, au moment où on se parle, sous l'Arc de Triomphe, le rond-point de l'Arc de Triomphe qui est entièrement fermé. Il y a également des agriculteurs au pied de la Tour Eiffel sur le périphérique parisien. L'autoroute A13 est coupée en direction de Paris, et un dépôt de carburant dans la région de Bordeaux est, au moment où l'on se parle, bloqué également. On continuera à vous informer dès le journal de 8h sur tous ces points de blocage. 7h51 dans un instant, c'est la voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Pauline.
En pleine Coupe d'Afrique des Nations, vous avez un message ce matin. Oui, on peut soutenir à la fois la France et l'Algérie.
Oui, je pense qu'on peut déclarer avec la même fougue et 1 et 2 et 3-0 et 1-2-3.
Et vous nous le dites dans un instant. À tout de suite, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Ah bah tiens.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus, Mathieu. On parle géopolitique, ouais. Groenland, avec la chanteuse Björk.
La chanteuse islandaise, pour ceux qui l'auraient oublié. L'Islande, pays voisin du Groenland, convoité par Trump, vous le savez, la Maison Blanche étudie activement l'achat du territoire sans exclure l'option militaire. Eh bien, Björk se mêle au débat et elle vient soutenir les Groenlandais. Elle vient même les encourager. La chanteuse appelle publiquement les Groenlandais à déclarer leur indépendance du Danemark. Björk, qui publie une tribune sur Instagram, je cite, « Bonne chance à tous les Groenlandais dans leur lutte pour l'indépendance. Il faut savoir que l'Islande, je ne le savais pas, elle-même était comme le Groenland sous domination danoise jusqu'en 1944. La possibilité que les Groenlandais puissent passer d'un colonisateur cruel à un autre est trop brutale pour même l'envisager. » Voilà ce qu'écrit Björk cette nuit sur Instagram.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h54 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Voix de gauche ce matin, Cécile Duflot. Bonjour Cécile, vous vous intéressez à la Coupe d'Afrique des Nations ce matin. Et votre message, c'est qu'on peut à la fois aimer la France et l'Algérie.
Mais la preuve par la famille Zidane et par Zinedine Zidane, qui était tellement ému et heureux de la qualification de l'équipe d'Algérie. Et pourquoi ça me fait plaisir? Parce qu'on ne peut pas dire autre chose que Zidane, qui est le héros intergalactique de l'équipe de France, celui à qui on doit la Coupe du Monde, celui dont certains rêvent, dont beaucoup rêvent de le voir devenir sélectionneur de l'équipe de France. Et donc, il s'est tout autant réjoui, il a été ému jusqu'aux larmes par la victoire de l'équipe d'Algérie, peut-être aussi par celle de son fils, puisque son fils est gardien de but de cette équipe, après avoir été dans l'équipe de France des moins de 18 ans. Et je peux vous dire quand même que cette joie-là, elle fait plaisir à voir en Algérie, mais aussi en France, où cette équipe a beaucoup de supporters.
Est-ce qu'il n'y a pas un reproche de conflit de loyauté? C'est parfois reproché, en tout cas, aux binationaux.
Oui, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que je les ai lus. Et la réponse d'une fan de foot, et de Zidane d'ailleurs, très connue, qui s'appelle Mel Rabedia, elle le dit avec des mots très simples. Elle dit que son rapport à la sélection française, c'est le même que son rapport à la sélection algérienne ou à l'OM. C'est ses équipes de cœur. Elle est heureuse quand elle gagne, elle est triste quand elle perd. Et d'ailleurs, elle a réalisé un très joli épisode de sa série Miskina la pauvre sur un match France-Algérie que je vous conseille de regarder. Mais il y a aussi Gad Elmaleh qui, lui, a dit qu'il a suivi tous les matchs du Mondial dans lequel l'équipe du Maroc a surperformé. C'était une performance historique avec ses fils qui avaient un maillot du Maroc à Monaco. Mais je peux aussi vous parler d'une supportrice absolument acharnée de l'équipe de France que j'ai vue verser une larme quand elle a appris la qualification extraordinaire de l'équipe du Cap-Vert en Coupe du Monde.
Et justement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on supporte deux équipes et qu'elles jouent l'une contre l'autre?
Alors ça, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en souviennent. En France, en 2000, en finale de l'Euro, le match entre la France et l'Italie, il y avait des pères pour l'Italie, des fils pour la France, et les uns ont consolé les autres et réciproquement. Et ça, ça dit aussi beaucoup de ce qu'est notre pays. Mais il y a un très grand sportif, il s'appelle Tony Yoka. Il a été champion du monde, champion olympique, pardon, français de boxe poids lourd à Rio en 2016. Et il dit que ça lui permet de trouver l'apaisement parce qu'il aime le Congo autant que la France. Et il dit ces mots simples, je ne veux et je ne peux pas choisir entre les deux. Et si un jour il y a un match France-Congo, je serai content, quoi qu'il arrive, car là, je ne pourrai pas perdre ce match.
Oui, c'est possible, un match où on ne perd pas?
Ben, visiblement, c'est possible, parce que ces citations proviennent d'une super série que le journal Le Parisien a consacrée à des gens qui racontent leur canne à eux, ma canne à moi, et je vous recommande sa lecture, parce que ces papiers racontent très joliment ce qu'est la France aujourd'hui. Vous l'avez compris, il y a plein de choses qui se jouent dans le sport. Il y a évidemment des aventures sportives, mais il y a aussi souvent beaucoup de la politique, et je trouve que cet attachement à une équipe nationale ou à plusieurs dit beaucoup de ce que nous sommes. Donc, je ne suis pas une spécialiste de sport, et je le dis très modestement sur une chaîne avec de grands, grands spécialistes du foot. Mais je pense qu'il y a un spécialiste du foot qui aurait pu parler de tout ça très, très bien. Il s'appelle Christophe Glaise. C'est un passionné, un amoureux du foot et du foot africain. Il est emprisonné en Algérie et je souhaite vraiment très fort que tous ceux, célèbres ou non, qui attendent impatiemment le match de samedi, parlent de lui, agissent pour lui et œuvrent à sa libération. Pour qu'on puisse tous dire le cœur très léger, 1, 2, 3, vive l'Algérie.
Et qu'on puisse effectivement espérer sa libération, son retour. Vous espérez donc que, y compris les Zidane eux-mêmes, puissent l'exprimer. Merci Cécile Duflo pour évidemment votre voix de gauche ce matin. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant sur RMC, la météo et le journal, à la une du journal de 8h. Ces blocages désormais de ces agriculteurs, blocages à l'intérieur de Paris, les tracteurs qui sont au pied de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, mais aussi la 13 bloquée, un dépôt de carburant dans la région de Bordeaux. On fait le point dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h et la tempête arrive, Géraldine.
Ce sera pour ce soir et la nuit prochaine, oui, à cette tempête Goretti avec la Manche en vigilance rouge, le quart nord-ouest en vigilance orange. On va d'ailleurs y revenir dans un instant. On continue aussi de surveiller le Vaucluse et les Savoies qui sont en vigilance orange pour la neige et les pluies verglaçantes qui se poursuivent actuellement. Et sinon, sur plus des trois quarts du pays, c'est de la pluie qui va nous concerner aujourd'hui. Et des températures qui vont très largement remonter dans l'ouest, qui resteront encore fraîches à l'est. Cet après-midi, on ira de 3 degrés à Grenoble jusqu'à 17 pour Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
8h sur RMC et RMC Story. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les agriculteurs sont entrés dans Paris ce matin et ils expriment leur colère malgré les interdictions. Ils sont à la Tour Eiffel, au pied de l'Arc de Triomphe et sur l'autoroute A13 également. On va tout vous détailler dans un instant. Deux questions également dans l'actualité ce matin. Aura-t-on un budget en janvier? Les députés se replongent dedans à l'Assemblée. Et jusqu'où ira Donald Trump? Il propose désormais d'acheter le Groenland.
Les agriculteurs expriment leur colère ce matin dans Paris.
Oui, les premiers tracteurs sont entrés vers 5h du matin dans la capitale à l'appel de la coordination rurale. Ils sont une centaine en région parisienne, une vingtaine dans Paris, c'est ce que vient de dire le ministère de l'Intérieur. Au pied donc de la Tour Eiffel, à la porte d'Orléans, ou comme vous allez l'entendre, autour de l'Arc de Triomphe avec Émilien Serrallier, venu de Charente-Maritime pour dénoncer la gestion de la maladie bovine et le Mercosur aussi, dont la signature est annoncée demain à Bruxelles.
On est tellement blasé que je pense qu'à force ça finira mal. Quoi. Quand on voit tous nos voisins, nos amis qui se suicident les uns après les autres, j'ai peur que ça finisse très mal, que ça finisse en drame de toute façon, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus rien à perdre. Des mecs comme ça, on fait 600 km, 700, 800 km en tracteur. Rendez-vous compte quand même de la situation. Allez, on est au bout, enfin, clairement au bout. Mais on a l'impression que ça servira peut-être pas. Faudrait peut-être casser pour se faire plus en compte.
Alors avec la présence des tracteurs, une partie de l'A13 est coupée, l'autoroute entre Saint-Cloud et le périphérique, c'est l'entrée dans la capitale. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice à RMC. On répétait pourtant depuis deux jours, des jours que des arrêtés avaient été pris pour empêcher les agriculteurs d'entrer dans Paris.
On se demande comment ils ont fait.
Effectivement, mais en tout cas, le constat est clair. Ils sont parvenus à déjouer le dispositif qui avait été mis en place par les autorités. Des groupes de tracteurs dont certains ont forcé les barrages de gendarmerie qui avaient été installés assez loin de la capitale en prenant des risques totalement inconsidérés, souligne ce matin le ministère de l'Intérieur. Ils sont arrivés d'un peu partout dans la nuit et n'ont pas pu être stoppés. Il y avait pourtant une trentaine d'unités de forces mobiles, compagnie de CRS et escadrons de gendarmes mobiles qui avaient été mobilisés, notamment pour protéger des points stratégiques comme le marché international de Rungis, par exemple. Mais ce dispositif était donc éparpillé en région parisienne et les agriculteurs sont parvenus à le contourner. Et donc, au final, une centaine de tracteurs sont actuellement bloqués aux portes de Paris, selon le ministère. Une vingtaine sont dans la capitale, autour de l'Arc de Triomphe et au pied de la Tour Eiffel.
Et je vous signale aussi qu'un dépôt de carburant, celui de Bassins, s'est bloqué depuis hier soir près de Bordeaux par une quarantaine d'engins, également à l'appel de la coordination rurale.
8h03 sur RMC et on reparle budget ce matin.
Oui, après l'échec, vous savez, des débats en fin d'année dernière, le gouvernement assure qu'un budget sera trouvé en janvier. À l'instant, la ministre Amélie Montchalin n'exclut, dit-elle, rien qui puisse donner un budget à la fin aux Français. Voilà pour les déclarations. Les discussions reprennent aujourd'hui en commission des finances à l'Assemblée. Cyprien Pézeril, il sera question de quoi ?
Augmenter les recettes ou diminuer les dépenses, l'essentiel n'est toujours pas tranché. Et seul l'objectif de contenir le déficit à 5% du PIB fait consensus entre LR, PS, macronistes et le gouvernement. La droite prône un coup de rabot et promet 6 milliards d'économies quand les socialistes estiment qu'il faut 12 à 13 milliards de recettes supplémentaires avec une série d'amendements sur les très hauts patrimoines ou sur les bénéfices des grandes entreprises. De quoi revenir notamment, espère le PS, sur la suppression de 4000 postes de profs. Entre réunions officielles et tractations officieuses, les discussions s'éternisent. Il faut qu'on passe à autre chose, souffle un chef de parti qui pourrait se montrer plus conciliant. D'autant qu'au gouvernement, on ne dit plus complètement non au 49-3. Tout le monde a en tête qu'il faut un outil pour se sortir du bourbier, reconnaît la ministre du budget.
Et puisqu'on parle de bourbier, tiens, des opérations de salage et même de déneigement sont en cours sur les routes du Massif central. Vous nous l'avez signalé très tôt ce matin au 32-16 dans les secteurs d'Aurillac, du Puy-en-Velay, de Saint-Etienne, sur l'A75 aussi au niveau du viaduc de Millau. Les stations de ski sont ravies dans les Alpes. Et c'est en attendant la tempête Goretti qui va balayer le quart nord-ouest de la France, placée en vigilance orange pour la nuit prochaine. La Manche, le département de la Manche sera même en vigilance rouge, Géraldine de Maury. On parle d'un phénomène de bombe météorologique.
Exactement, on parle de bombe météorologique parce que la pression atmosphérique va chuter brutalement. On va perdre presque 40 hectopascales en moins de 24 heures, hein, ce qui est énorme. C'est notamment parce que la dépression est placée très près du jet, ce qui va l'alimenter. Et c'est ce qui va générer ces vents tempétueux. Le cœur de la dépression va vraiment passer sur la Manche, vraiment entre l'Angleterre et la France. C'est au sud de la dépression que les vents seront les plus violents, jusqu'à 160 km/h sur le littoral du département de la Manche, 130 dans ses terres, en particulier entre 21h ce soir et 3h demain matin, ce sera vraiment le pic. Sur le reste du quart nord-ouest, les rafales atteindront les 120 km/h près du littoral, 100 dans les terres, y compris dans les rues de Paris. On attend des gros dégâts, notamment des toitures arrachées, des vitres brisées par les dégâts, des arbres arrachés, donc c'est vraiment important de vous mettre en sécurité pour la nuit. Attention au risque de submersion également, en particulier au moment de la pleine mer la nuit prochaine. Le calme sera de retour demain matin.
Le continent américain géré par des Américains, c'est une vieille doctrine aux États-Unis et Donald Trump l'adapte à sa sauce. On le voit en ce moment avec la capture de Nicolas Maduro au Venezuela, la traque et la saisie dans l'Atlantique d'un navire russe accusé de transporter du pétrole vénézuélien. Et des vues de plus en plus insistantes sur le Groenland. Alors officiellement, c'est pour des raisons sécuritaires. Officieusement, c'est plutôt pour mettre la main sur les ressources énergétiques au Groenland, territoire qui est danois. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Il menaçait d'utiliser l'armée. Et bien maintenant, il propose des sous.
Oui, Donald Trump veut acheter le Groenland. C'est la piste, en tout cas, qui est privilégiée par le président, selon sa porte-parole, qui précise néanmoins que toutes les options restent sur la table, y compris le recours à la force. Alors à ce stade, les États-Unis ne prévoient pas de déployer des soldats sur l'île pour la saisir. Mais cette menace d'une potentielle intervention militaire, c'est clairement une façon d'intimider le Danemark pour lui tordre le bras et le forcer à négocier. La semaine prochaine, d'ailleurs, Marco Rubio, le chef de la diplomatie, doit rencontrer des responsables danois. Trump, quoi qu'il en soit, est déterminé et il faut prendre au sérieux ces menaces, notamment parce que depuis l'attaque contre le Venezuela, il se sent poussé des ailes, convaincu plus que jamais que la force l'emporte sur le droit international.
Et qui l'emportera en football ce soir, 19h? On vivra ça sur RMC entre Paris et Marseille, dans le Trophée des Champions. C'est un des matchs les plus chauds, normalement, du foot français. Mais alors là, il va se jouer au Koweït avec presque aucun supporter des deux camps, Florent Germain.
Oui, trop loin, trop cher, trop absurde. Cette finale au Koweït a donc été boycottée par les habituels groupes de supporters du PSG et de l'OM. Le capitaine parisien Marquinhos a tout de même bon espoir que Koweït City et son stade de 55 000 places soient acquis à la cause du PSG.
Quand on a sorti de l'hôtel, quand on est arrivé, on a vu qu'il y a beaucoup de supporters de Paris Saint-Germain. Alors je pense que ce stade il va être plein avec supporters de Paris.
Dans ce match des tribunes, une délégation de supporters marseillais, l'OM Fan Club de Dubaï, va donner de la voix. Promet Benjamin.
Bah, dès qu'on a su que c'était au Koweït, on a regardé les billets d'avion tout de suite. On est tous d'anciens winners, d'anciens MTP ou d'anciens Yankees. C'est l'OM dans le sang pour tous. Il y a les tambours, il y a les tifos. Vous pouvez compter sur nous, il y aura du bruit.
L'entraîneur Roberto De Zerbi pense, lui, aux fans de l'OM restés à Marseille et veut leur ramener le trophée.
On est loin d'eux, mais on connaît l'histoire prestigieuse de l'OM et on veut écrire une page moderne. On va tout donner. Quand on rentrera à Marseille, on pourra regarder nos supporters dans les yeux et leur dire qu'on a fait le maximum.
Et d'ailleurs, un voyage retour en avion de quasiment 6 heures, cela passe toujours plus vite avec le trophée dans les bagages.
Bon, et puis on est à un mois maintenant des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Bonne nouvelle, Clément Noël qui a remporté hier soir le slalom de Madonna di Campiglio en Italie, c'est du ski alpin. Paco Rassa termine 3e, cette bonne augure à un mois des Jeux.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Économie et budget, parce que c'est le grand retour du budget à l'Assemblée nationale. Emmanuel Le Chip, bonjour Emmanuel. Va falloir se mettre d'accord et le plus vite possible parce que ça coûte là.
Oui, alors les députés de la commission des finances vont repartir donc de la copie du Sénat, hein, c'est toujours bien d'en rappeler le circuit parlementaire, version du Sénat qui est plutôt rigoureuse au niveau des dépenses et de la fiscalité. En gros, la version du Sénat, c'est presque une version Bercy compatible de ce budget 2026. Et sachant qu'à partir de cette copie plutôt austère, il va falloir trouver une bonne douzaine de milliards d'euros de recettes ou d'économies. Alors, je peux vous dire qu'il y a des négociations qui ont déjà eu lieu toute cette semaine et que... il y a quand même plusieurs mesures dont on peut penser qu'elles pourraient faire consensus.
Lesquelles ?
Alors, il y a d'abord celle du rapporteur général du budget, le LR Philippe Juvin. Il propose deux réductions de dépenses, que les agents de l'État conservent le budget de 2025 en 2026. Ça fait 1,2 milliard d'euros d'économie et que chaque ministère, hormis ceux des armées, de la justice et de l'intérieur, réduise son budget de 2,5%. Là, on va chercher plus de 6 milliards d'économies par rapport à la copie du Sénat. Même c'est une proposition qui, bon, ne convient pas à tout le monde, mais qui serait une base de travail intéressante. Côté recettes, les socialistes, avec le gouvernement, proposent une surtaxe d'impôt sur les sociétés qui a été actée par Roland Lescure, le ministre de l'économie. C'est 4 à 6 milliards d'euros. Les Républicains pourraient finalement accepter, si l'on en croit plusieurs de leurs députés. Pour obtenir ensuite une hausse de la prime d'activité et le maintien de 4000 postes d'enseignants, les socialistes abandonneraient la taxe Zucman pour se satisfaire d'un IFI un peu renforcé, voté avec les voix du Rassemblement National, de la reconduction de la contribution sur les hauts revenus et d'un recadrage des niches fiscales Dutreil et Madelin.
Tout ça au moment où nos concurrents baissent la fiscalité sur les entreprises.
Bah, c'est toujours ça qui est fascinant, c'est-à-dire de voir à quel point la France est à contre-courant quand même de ce qui se fait dans le reste du monde. Je vous rappelle que quand même, Donald Trump, lui, a promis de ramener de 21 à 15% le taux d'imposition sur les sociétés aux États-Unis et qu'il a même fait sortir les entreprises américaines de l'accord de l'OCDE qui prévoyait un taux d'imposition minimal de 15% pour lutter contre les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, Donald Trump, c'est ses vrais paradis à lui.
Emmanuel Le Chypre, merci à vous. Débat donc sur le budget qui reprend aujourd'hui, 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera l'ancien ministre du Budget, justement, maire de Meaux, Jean-François Copé. La droite qui menace de censurer le gouvernement, notamment si le Mercosur est adopté. On viendra bien sûr aussi sur la colère des agriculteurs. Et puis juste après, Nicolas Canteloup et ses imitations. Rendez-vous à 8h50 sur RMC. Restez avec nous, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
Tous les jours de manche.
Il est 8h15 et Arnaud Demange est entré en courant dans ce studio.
En galopant et sans déraper malgré la neige. Parce qu'attention, ce matin, les amis, la moitié de la France est encore en vigilance cassage de gueule. Ça glisse toujours sur les routes. Il reste de la neige. C'est toujours mignon. Je regardais BFM hier. Les reporters de BFM TV étaient tous mobilisés.
Bienvenue sur BFM TV. Alice Darfeuille est en direct dans Paris, un paysage merveilleux mais glissant. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Oh oui, Francky, comme du savon de Marseille. Très bien, Alice. Tu veux mon zizi? Oula, attention, dérapage. On vous l'a dit, la neige, dérapage.
Alice, ça glisse au pays des merveilles.
Voilà. Dans les groupes WhatsApp de famille, tous les membres s'envoient des photos de jardins enneigés. Vous l'avez chez vous aussi, ça?
Ah oui.
Tout le monde est là.
Travail.
Oh, trop mignon. Chez nous, il neige.
Chez moi aussi, il neige.
Oui, mais chez moi, il neige plus.
Non, c'est chez moi qu'il neige plus.
Non, c'est chez moi, espèce de pute. Non, c'est chez moi. De toute façon, depuis que tu sors avec mon frère, j'ai jamais pu t'encadrer, grognasse. Bon, je déconne. C'est pas toujours comme ça. C'est plutôt... Elle tient bien. T'as eu combien de centimètres? Oh, elle est dure ce matin. On dirait une réunion de ninfos. Parce que il y a des phrases. Il y a des phrases qu'on peut dire autant pour la neige que pour son ex. Et c'est l'occasion de jouer à un petit jeu.
Non.
La neige, non. Ton ex ou les deux. Attention. C'est beau, mais après deux jours, ça ressemble déjà plus à rien.
Les deux.
Moi, j'aurais dit la neige. Quand tu la vois sur le trottoir, t'essayes de l'éviter.
Les deux.
Il m'a quitté pour une pétasse. Ton ex.
Oui.
Quand elle arrive, il faut que je sorte les chaînes. L'ex de Mathieu Béliard. Oh, c'est un beau bonhomme. T'as vu, les enfants lui ont enfoncé une carotte.
Non.
La neige, Apolline, la neige. Évidemment, c'était la neige, il y avait un piège.
Arnaud, passons à autre chose. Les agriculteurs bloquent Paris ce matin.
Oui, pour protester contre l'accord commercial avec l'Amérique du Sud, le Mercosur. Ils sont tellement nerveux. Je sens qu'ils vont faire comme Trump, vouloir kidnapper le président brésilien. Mais bon, autant quand tu fonces vers une capitale en avion de chasse, l'autre, il n'a pas le temps de se planquer, mais en arrivant en tracteur...
Regarde à toi. Oh mon Dieu,
il s'enfuit en marchant calmement. On rappelle que le problème du Mercosur, c'est la qualité des produits agricoles sud-américains. C'est pas les mêmes que chez nous, les standards. Hein. La pintade française, elle est bien bonne, elle est bien grasse, parce que nourrie au grain, en plein air, la pintade brésilienne, elle a des implants fessiers, des injections pour qu'elle ait des grosses cuisses. On connaît, ils font pareil avec leurs influenceuses. On connaît la combine. Hein. Et tu me disais, moi je mange pas ça, hein. Tu bouffes que du plastique. Vous parliez de la pintade, j'imagine.
Les deux.
Nicolas Maturo est toujours emprisonné à Brooklyn.
Oui, encore un Nicolas en prison, c'est la loi des séries. Ouais. Après Sarkozy, Maduro, à la place de Nicolas Dupont-Aignan, je raserai les murs. Hein. Attention Nicolas, surtout les Nicolas qui soutiennent Poutine. En ce moment, c'est des cibles privilégiées. Il va nous faire un live Facebook. On veut me faire taire parce qu'on me craint. Non Nicolas, tu crains, c'est différent. Vous vous souvenez qu'il avait fait son annonce de candidature à la taverne de Maître Canter de Bar-le-Duc?
Bien sûr.
Vous imaginez si Trump avait bombardé à ce moment-là? Et on apprend à l'instant sur BFM TV ce bombardement. On a retrouvé aucun survivant parmi les amis de Nicolas Dupont-Aignan. Mais en même temps, il n'y avait personne pour soutenir Nicolas Dupont-Aignan, ce qui, heureusement, monte le total des victimes à zéro mort et zéro blessé. Ouf. En tout cas, quand même, hein, Venezuela, Iran, Ukraine, côté français, on a conscience que le monde devient de plus en plus dangereux. Alors, vous avez vu, on va avoir un nouveau porte-avions, tout neuf. Mais on ne sait pas encore comment l'appeler. On cherche le nom. Ils en débattaient aux grandes gueules la semaine dernière. Les Américains, bon, c'est facile, ils donnent des noms de présidents, mais nous, on ne peut pas faire ça. Tu vois, le Hollande, le René Coty, ce n'est pas très impressionnant. Après, le Charles de Gaulle, il faut trouver un autre nom de héros historique qui claque. Alors, certains proposent le Richelieu, le Vauban, le Lafayette. Moi, je propose le Godefroy de Montmirail.
Oui,
ça aurait de la gueule quand on croiserait un navire étranger. Ici USS Alabama, vous rentrez dans les eaux américaines. Identifiez-vous.
Je suis Godefroy Amaury de Malfaite, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfaite et de Thibaut de Montfaucon.
Oh là là.
Ok, monsieur le Hardy, excusez-nous, faites ce que vous voulez, ces eaux vous appartiennent. Ah, tremblez, les Américains, c'est les Chinois. Ou plutôt tremblez, les Monégasques, les Slovènes et les Papous. On arrive. Allez,
Arnaud de Manche, tous les jours, 7h20, 8h20. Et à tout moment, en podcast, bien sûr, le 32-16. C'est Marie-Christine qui nous appelle à l'instant de Lisieux. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes assistante de sécurité, vous vouliez parler des salaires. Vous avez entendu là les augmentations de salaire. Alors il va y avoir en moyenne 3,1% d'augmentation de salaire cette année, mais c'est quasiment fini les augmentations collectives. On privilégie désormais les augmentations individuelles. Vous en pensez quoi Marie-Christine?
Alors moi, je voulais un petit peu revenir sur ce chiffre, parce que je ne sais pas où il a été le chercher, mais 3%, c'est énorme, sachant que le SMIC a été augmenté de 1,18. Donc, et qu'il parle de 900 entreprises, alors qu'on est pratiquement 200 entreprises en France, petites et moyennes et grandes entreprises.
Comment hein, non, mais... non, on n'est pas 200 et... entreprises, 200 000
entreprises.
Oui, quand même, entreprises, on est, voilà. On est 200 000 entreprises et il a étudié 900 entreprises.
Voilà, donc les chiffres, voilà, c'est pas...
Marie-Christine,
il y a pas beaucoup de représentativité.
Marie-Christine, vous êtes syndicaliste dans votre entreprise?
Oui, je suis déléguée syndicale depuis 14 ans.
Ouais.
CFDT, et je me bats au niveau national aussi, puisque je suis une négociatrice de branche.
Ok.
Et donc, nous, on se bat pour du collectif. L'individuel, c'est bien, mais ça veut bien dire ce que vous allez dire, c'est de l'individuel. Et dans une entreprise, s'il n'y a pas de collectif, l'entreprise, elle avance pas.
Et en même temps, Marie-Christine, est-ce que vous avez entendu, je crois que c'était Vincent qui nous appelait, qui lui travaille dans une entreprise de transport, et lui, il disait, en fait, il y a même un conflit presque de génération. Il dit, les anciens, ils préfèrent le collectif, parce que du coup, bah, en fait, il y en a quelques-uns qui peuvent être un peu plus tranquilles. Nous, au contraire, il dit, moi, je suis hyper volontaire, je fais du polyvalent, je suis prêt à livrer du pelé le matin, du fioul le soir. Mais au moins, du coup, j'estime que je dois avoir un salaire qui est plus individualisé. Est-ce que vous entendez ce conflit générationnel? En tout cas, c'est ce qu'il disait, lui, Vincent.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le conflit. Il y a ceux qui vont... moi, c'est ce que j'appelle les suceurs. Hein, ça va être à la gueule du client. Et si les entreprises ou les chefs ne sont pas formés ou il n'y a pas des bases bien précises pour dire les individuels, c'est basé sur ceci, cela, et pas à la tête du client.
Mais lui disait de ce. Alors j'ai bien compris, j'ai entendu votre mot. En même temps, ce que je trouve intéressant, j'aurais bien aimé que vous puissiez dialoguer. Il faudrait qu'on fasse ça un jour. On rappelle Vincent et on vous rappelle vous parce que c'est très intéressant. C'est vraiment une autre approche. Quand vous dites c'est les suceurs, je mets ça ce mot évidemment entre guillemets, Marie-Christine. Mais lui, il disait à l'inverse que ceux, il y avait les planqués en gros qui eux trouvaient ça bien confortable que les augmentations soient collectives quoi.
Mais ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, il y en aura toujours dans les entreprises, ceux qui se donnent du mal et tout ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir de l'individuel.
Oui, voilà. Exactement. Mais en fait, avoir les deux.
Le collectif, parce que sinon, les grilles de salaire, elles vont se tasser. Au niveau des conventions collectives, ça va sauter. Ça ne servira plus à rien de faire des négociations nationales. Et le but du jeu, c'est de faire augmenter les salaires et pas les faire aller vers le bas.
Donc, ça, on est bien d'accord.
Collectif et avoir justement une enveloppe pour les individuels. Ça ne me dérange pas, les individuels, quand elles sont bien cadrées.
Merci. Pas.
Mais il faut du collectif.
Super réaction. Merci Marie-Christine et merci Vincent tout à l'heure. Je trouve ça super d'entendre effectivement chacun de vos réactions. Marie-Christine qui, elle, nous appelait de Lisieux. Il est 8h23. Dans un instant, la politique. Mon invité, c'est Jean-François Copé, la droite qui menace de censurer le budget qui revient. Le 49.3 qui est à nouveau brandi, y compris par le gouvernement, et les agriculteurs qui bloquent toujours une partie de Paris, la 13 qui est bloquée en direction de Paris, un dépôt de carburant bloqué depuis hier soir à Bordeaux, le Mercosur qui pourrait être malgré tout signé dans ces conditions demain. La politique dans un instant, ça se passe sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Meaux, vous êtes l'ancien ministre du budget. La droite, j'y comprends plus exactement qui représente quoi. Vous allez essayer de m'aider et de m'éclairer dans un instant. Mais d'abord, cette colère des agriculteurs. On a vu ces images depuis 5h ce matin. Une partie d'entre eux, ceux qui avaient promis de rentrer dans Paris, malgré les interdictions, ont bel et bien réussi à franchir le périphérique. Certains sont au pied de la Tour Eiffel, d'autres bloquent l'arc de Triomphe, le périphérique, la 13 qui est bloquée en direction de Paris. À Bordeaux, c'est un dépôt de carburant qui est bloqué depuis hier soir. Est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs?
En tout cas, des agriculteurs de cette filière principalement, puisque vous savez que c'est beaucoup la filière de l'élevage qui est concernée par le Mercosur. Après, ne me demandez pas de cautionner les blocages et les prises en otage de centaines de milliers de Français qui ne peuvent pas aller travailler, qui sont aujourd'hui en incapacité.
Ils auraient dû être bloqués davantage, c'est-à-dire que l'interdiction avait été mentionnée. Oui, mais visiblement, on n'a pas réussi à les empêcher de rentrer.
Enfin, écoutez, je le regrette évidemment, mais après, vous me demandez si je comprends. Ben, non seulement je comprends, mais je vois bien l'origine de cette très grave inquiétude qui, on se le dit ici, dépasse la question du Mercosur et qui dépasse même la question de cette dermatose qui touche aujourd'hui nos élevages.
Ça dépasse, même si le Mercosur est effectivement, et c'est ce que dit la coordination rurale notamment, en quelque sorte l'étincelle de trop, qui devrait d'ailleurs et qui pourrait être signé dès demain, mais quand vous dites ça vient de beaucoup plus profond, est-ce que vous considérez aujourd'hui que depuis des années, on aurait dû faire et on n'a pas fait pour la filière de l'élevage, pour la question, eux disent, on a laissé entrer une concurrence déloyale, on nous a imposé trop de normes. Ce matin, la porte-parole de la coordination rurale disait, c'est pas un problème européen, c'est même un problème français de zèle.
Oui, oui, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, je pense que, en tout cas sur cette partie-là, pour le reste, j'ai beaucoup de désaccords avec la coordination rurale, mais je pense qu'effectivement, nous avons commis l'erreur en France d'être trop zélés par rapport à la norme européenne. On est allé surtransposer des directives qui ont aujourd'hui, qui pèsent aujourd'hui extrêmement lourd, d'ailleurs sur l'ensemble du monde agricole. Je pense en revanche que la filière de l'élevage aujourd'hui, elle est très directement concernée parce que il y a un vrai travail qui n'a pas été fait aussi de réorganisation de cette filière. Pour assez bien connaître ces sujets depuis de nombreuses années, il y a des filières agricoles qui sont beaucoup mieux organisées, beaucoup mieux structurées. Je pense par exemple à la filière de la céréaliculture, je pense à la filière viticole. Il y a une vraie fragilité de l'élevage depuis longtemps, mais je pense que le Mercosur, ça n'est pas que cela. Et je pense que, de ce point de vue, les partis de gouvernement commettent une erreur historique en ne parlant pas aux Français du Mercosur, autrement que de manière assez démagogique, si vous voulez, en suivant les populistes. Parce que on peut pas d'un côté s'inquiéter de voir Trump bloquer complètement par des tarifs commerciaux monstrueux l'économie européenne, puisque aujourd'hui, moi, je ne suis préoccupé que par l'économie française et européenne face à ce qui est en train de se passer dans le monde, et de l'autre, ne pas voir qu'il nous faut chercher des nouveaux marchés.
Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous l'avez sans doute vu, Bruno Retailleau, qui menace même de censurer le gouvernement si le traité est adopté.
Mais
il se trompe.
De manière générale, vous l'avez vu, la classe politique française dans son ensemble, parce qu'il n'y a plus de majorité, parce qu'il n'y a plus de chef, malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, compte tenu de ce désordre politique, plus personne n'a la volonté de remettre en perspective les grands sujets devant les Français. Le Mercosur n'est pas arrivé la semaine dernière, ça fait 25 ans qu'il est discuté. Quelle est l'idée ? C'est de faire en sorte que l'Europe, et la France en particulier, ne dépendent plus simplement des Chinois ou des Américains. Or, quand nous voyons ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la rupture complète de l'alliance historique avec les États-Unis, il faut, nous, qu'on trouve de nouveaux marchés. Je rappelle que l'Amérique latine, en particulier cette partie-là, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, ce sont des pays qui, par exemple, ont du lithium. Nous n'en avons pas. Du manganèse. Nous n'en avons pas. Nous avons besoin de déployer notre filière viticole qui, aujourd'hui, ne peut plus aller aux États-Unis ou en Chine avec les droits de douane qui nous sont imposés. Idem sur le plan industriel. Donc, en réalité, c'est tous ces sujets qu'il faut mettre sur la table. Qu'ensuite, il y ait des filières qui soient malheureusement menacées, y compris par rapport à la qualité des produits alimentaires et notamment de la viande. Mais donc, ça veut dire qu'on doit être très ferme sur le contenu. Et c'est le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine sur la manière dont les produits sont importés.
Avec, vous l'admettrez, assez peu de contrôle. C'est très rhétorique.
Oui et non. Enfin, personne dans le traité, il n'est pas dit qu'on ne doit pas contrôler.
Non, il n'est pas dit qu'il ne faut pas contrôler, mais on a très peu de douaniers, on a très peu de contrôle, on en a quasiment pas sur place là-bas et très peu ici.
D'accord, donc rien ne nous interdit, parmi les mesures de compensation, de le faire. Bon, de même que rien n'interdit qu'il y ait des mesures de compensation pour la filière de l'élevage.
Attendez,
d'ailleurs, je note que Mme Meloni l'a négocié avec Bruxelles. Donc, il va bien falloir que nous aussi, dans ce domaine-là, on s'occupe de nos intérêts.
Mme Meloni, qui d'ailleurs, il y a 3 semaines, sans doute, pour apaiser les choses en France, disait à Emmanuel Macron qu'elle était d'accord avec lui pour refuser le Mercosur, mais qui finalement, ces derniers jours, dit à l'inverse
elle lâche la France, oui, bien sûr.
Qu'elle lâche l'acceptera. La
mais parce qu'elle est en train de devenir plus européenne que les Européens, Mme Meloni, en réalité. Elle a totalement changé d'approche par rapport à ça.
C'est-à-dire
elle a fait campagne contre l'Europe avec une violence absolument inouïe. Bon, elle a fait campagne contre l'immigration avec une violence inouïe. Jamais l'Italie n'a été aussi pro-européenne et jamais l'Italie n'a autant régularisé d'immigrés clandestins. Bon, c'est son choix. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que
le procès
en insincérité du populisme, il trouve aussi sa source parfois dans ce type de comportement.
Vous l'avez plusieurs fois dit depuis le début de cet entretien, le mot populiste, est-ce que Bruno Retailleau, en faisant du Mercosur un objet qui serait carrément l'objet du blocage et de la censure du gouvernement, tombe dans une forme de populisme.
Mais moi, je pense que c'est pas seulement la question de Bruno Retailleau que j'aime bien, avec lequel j'ai des relations tout à fait amicales. C'est plus généralement qu'est-ce que c'est la différence entre un parti de gouvernement et un parti populiste.
Donc, il est en train de tomber côté des partis populistes.
Mais quel est l'homme politique en ce moment qui prend le temps de dire que le Mercosur, ça n'est pas qu'une question d'une filière qu'il faut protéger? obligés, il faut évidemment le faire et l'aider, c'est la question plus générale de l'intérêt supérieur de la France et de l'Europe face à des blocs, la Chine, les États-Unis, la Russie, qui sont en train de créer des précarés contre l'état de droit et qu'il va bien falloir, nous, qu'on se protège intelligemment et qu'on cherche donc dans le monde des pays qui n'ont pas envie de cet alignement et qui veulent bien travailler avec l'Europe.
Est-ce que le parti Les Républicains, qui reste votre famille politique, est en train de basculer du côté du populisme?
Ça dépend des sujets, ça dépend qui.
Enfin, d'abord, c'est qui.
Oui, c'est ça, vous avez exactement.
J'ai envie de vous dire, c'est qui? C'est qui les LR?
Écoutez, comme disait Mirabeau de la France, de la Révolution française, c'est un agrégat inconstitué de peuples désunis. Voilà. Ah. Aujourd'hui, Les Républicains cherchent leur voie, cherchent un leadership, cherchent une ligne politique, cherchent un projet. C'est un parti qui est malade, qu'il faut restructurer. Et à mon avis, il faut même restructurer toute la droite de gouvernement. Et si on veut y parvenir, il y a une première question qu'il faudra trancher. Quels sont ceux qui veulent aller avec le Rassemblement National et quels sont ceux qui ne le veulent pas? Bon, moi, j'ai toujours été très clair, parce que je suis de l'école chiracienne. Et entre parenthèses, j'en ai un peu marre d'entendre ces récupérations à deux balles qui ne sont jamais contestées par les observateurs. Madame Le Pen n'est pas gaulliste et Monsieur Bardella n'est pas chiracien.
Voilà. Oui, enfin, j'allais vous le dire, Nicolas Sarkozy qui dit lui-même de Jordan Bardella qu'en réalité, il lui fait penser à Chirac.
Écoutez, moi,
et que le RN d'aujourd'hui, c'est pas très éloigné du RPR de votre époque.
J'ai, comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, comme un certain nombre de mes amis, d'ailleurs chiraciens, j'ai dit très clairement que c'était une bascule à laquelle je ne souscrirais jamais.
Mais quand vous dites, quand vous disiez Charles Pasqua,
du gaullisme, c'est un rebours du chiracisme,
quand vous
c'est même
aujourd'hui
un rebours
les propos de Charles Pasqua, il serait au RN aujourd'hui, Charles Pasqua.
Mais écoutez, j'en sais rien. Ça dépend des sujets. Je ne sais pas si c'est lui qui serait au RN ou si c'est le RN qui n'existerait pas. Je n'en sais strictement rien. Mais moi, je sais simplement que l'histoire de France n'est pas une page blanche. Voilà.
Ouais, et que non, attendez. Ce que vous dites, Jean-François Copé, c'est qu'au fond, le RN n'existerait pas si la droite était restée dans la ligne d'un Charles Pasqua.
Non, pas du tout. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il y a toujours. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. L'histoire de France n'est pas une page blanche. Voilà. L'histoire de la droite, ça n'est pas l'histoire de l'extrême droite. Et quand on adhère à un parti d'extrême droite, on fait un choix. Quand on adhère à un parti de droite, on fait un autre choix. Quelle est la ligne de partage? La ligne de partage, c'est que la droite, c'est un parti de gouvernement. C'est-à-dire que c'est un parti qui assume que les choses sont difficiles. Qu'on peut pas simplement faire croire qu'en balayant d'un revers de main, qu'en renversant la table, on règle les problèmes. C'est la différence, vous savez, entre les charlatans et les médecins. Voilà. Le charlatan, c'est celui qui dit, mais je vous guéris dans la semaine. Il y a aucun problème.
Donc le charlatan, c'est le populiste?
Mais bien sûr. Le médecin, c'est beaucoup plus compliqué d'être un médecin. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre du temps, parce qu'il y a plusieurs scénarios, parce qu'il faut discuter, réfléchir, ouvrir des livres, travailler un peu. Là, on voit bien que, bien souvent...
La ligne de fracture a l'air quand même assez floue, puisque, en vous entendant, on comprend bien que une partie des LR aujourd'hui sont tentées par une forme de populisme.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que lorsque vous avez, ce qui est le cas de la droite aujourd'hui, après qu'elle ait implosé avec le macronisme, une crise de leadership, une crise d'insincérité aussi, parce qu'on a dit beaucoup de choses et son contraire. On a besoin de reconstruire un projet. Et si on veut le reconstruire, il ne faut pas souscrire à la fois, il ne faut pas souscrire aux sirènes trop faciles de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Hein. Je rappelle que Le Pen, elle est socialiste du point de vue économique. Elle a voté 45 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Elle le nie. Mais sauf qu'il y a des chiffres. J'étais ministre du budget. Je sais un peu comment ça marche. Bon, dire qu'on va surtaxer les entreprises, les grandes entreprises, dire mais surtout les multinationales. Mais c'est le discours de Georges Marchais des années 80. Enfin, le monde est mondialisé aujourd'hui.
Oui, sauf que ça, Jean-François Copé, c'est la position aujourd'hui du gouvernement qui va quand même tenter, pour trouver un compromis sur le budget, le retour donc du budget à l'Assemblée nationale aujourd'hui, de faire accepter l'idée d'une surtaxe de 6 à 8 milliards sur les entreprises, surtaxe, qui devait être temporaire. Dans ce gouvernement aujourd'hui, il y a des membres de LR. Vous êtes où?
Attendez, là-dessus, d'abord, la Chine est en train d'écraser l'économie mondiale. Les États-Unis sont en train de déstabiliser la géopolitique et le commerce mondial. Et nous, notre débat aujourd'hui en France, c'est comment faire plaisir à Monsieur Faure en augmentant l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les entreprises, alors que tous les autres pays du monde, y compris en Europe, baissent les impôts des entreprises. Je rappelle que des impôts sur les entreprises, c'est des baisses de pouvoir d'achat pour les Français. Parce que personne ne le dit. Mais ça veut dire que c'est des salaires qui n'augmenteront pas. Première remarque. Deuxième remarque, et qui est tout aussi grave. on ne peut pas se compromettre dans tout et n'importe quoi. Il y a un moment, faut dire stop. On a déjà sacrifié la réforme des retraites. On aurait pu dire à Monsieur Faure, stop, vous avez obtenu, ce qui est déjà une folie, la suspension de la réforme des retraites. Maintenant, ayez le sens de l'intérêt général. Arrêtez le clientélisme. Ne pensez pas, vous, socialistes, que vous allez tout d'un coup devenir responsable vis-à-vis de LFI avec lesquels vous êtes compromis pendant des années en disant que vous allez augmenter aussi les impôts. On ne peut plus accepter une approche aussi folle.
Ça veut dire, Jean-François Copé, que la droite
alors
doit
la baisse
refuser.
Des dépenses qui doit compter.
Ça veut dire, Jean-François Copé, que pour vous, ancien ministre du budget, la droite doit refuser cette ce compromis
ça
autour
dire...
d'une augmentation, d'une
dire,
surtaxe de l'impôt sur la société.
Apolline de Malherbe, que quand on s'appelle Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, qu'on veut incarner, je sais pas quoi, le pompidolisme, le courage, et je ne sais pas quoi, il y a un moment où on doit dire stop. On doit dire chacun prendre ses responsabilités. On va mettre le 49-3 et c'est vous qui voyez. Nous sommes à 2 mois des élections municipales. Nous avons un monde en implosion. Nous avons besoin d'un pays stabilisé. Stop. Arrêtons les hausses d'impôts. Vous avez déjà obtenu beaucoup. Maintenant, il faut s'arrêter là, voter ce budget et rapidement revenir à l'essentiel. Nous ne pouvons pas continuer de paralyser les services publics.
Si on est tout à fait réaliste, s'ils font ça, potentiellement, les socialistes censurent. Donc
ça
passe
bien. Eh ben écoutez, on verra bien, mais il y a un moment de vérité. Il faut que chacun se regarde devant la glace en disant qu'est-ce qu'on fait.
Au fond, vous dites qu'il vaut mieux soit pas de budget, soit un budget mais qui puisse entraîner éventuellement la censure, une dissolution.
Écoutez, il reste l'option.
Vous aviez appelé à la démission d'Emmanuel Macron.
La dissolution d'abord, je m'excuse, mais enfin il faut qu'on arrête de penser toute la journée de trembler en disant Emmanuel Macron va dissoudre. La dissolution pour Emmanuel Macron, c'est le départ dans la semaine qui suit. Bon, c'est irresponsable. Et en plus, pour le même prix, on ne peut plus redissoudre pendant un an. Il a fait assez de dégâts comme ça. Donc, évidemment qu'il ne faut pas dissoudre. Et évidemment qu'il appartient à chaque force politique de dire, peut-être maintenant, stop. Les élections municipales arrivent. Le parti qui va créer le désordre ne va pas avoir une prime supplémentaire aux élections municipales pour ses candidats. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, et c'est, je vois, un combat qu'on doit tous mener. Il faut maintenant qu'on décortique, qu'on décrypte la folie des discours populistes de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il faut qu'on arrête de trouver que c'est frais et printanier lorsque Madame Le Pen vote 40 milliards d'euros de hausse d'impôts et que Monsieur Bardella dit « Moi, je suis libéral, j'adore les entreprises ». Ben non, il y en a un des deux qui ment. Ça s'appelle le double langage. Quand Madame Panot, sur votre antenne, refuse de dire que Maduro est un dictateur, alors que vous lui posez 5 fois la question, c'est un fait politique majeur. C'est pas juste comme quand elle dit « Ben nous, à LFI, si on prend des villes, au municipal, on enlèvera les caméras de vidéosurveillance et on désarmera les policiers. Ok, super. C'est un avis dingue, mais c'est un avis. Refuser de dire que Maduro, c'est un dictateur, c'est une position de populiste. C'est donc rappeler aux Français que Mélenchon, il est toujours l'ami des méchants. Voilà. Comme de la même manière, l'extrême droite, elle est extrêmement ambiguë vis-à-vis de la Russie.
Est-ce que vous estimez ce matin,
qu'il faut que
Jean-François
Copé, aborder en transparence.
Que RN et LFI sont des dangers pour la démocratie?
Mais en tout cas, je crois que ce qui est capital, c'est que les Français, en connaissance de cause, et c'est, si je peux me permettre, aussi le rôle des journalistes.
Tout à fait.
Que les Français, et j'ai d'ailleurs signé une tribune dans l'Express aujourd'hui pour le dire, il est temps que les Français, en connaissance de cause, sachent ce que cela veut dire de voter Le Pen ou Bardella, de voter Mélenchon ou de voter pour un parti de gouvernement. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, au lieu d'être dans la précipitation d'une dissolution où il faut décider en 8 jours de l'avenir de la France, une campagne présidentielle, ça donne du temps et c'est ça qui permettra
quand
de
vous
poser
voyez,
les responsabilités.
Quand vous voyez Sarah Knafo hier soir qui annonce sa candidature et qui invite à une alliance qui lui paraît à elle évidente avec notamment Rachida Dati, qu'est-ce que vous répondez?
Qu'on n'a rien à voir avec Sarah Knafo ni avec Zemmour, dont je rappelle qu'il est profondément anti-européen, qu'il en a fait son ADN, qu'il fait l'éloge de penseurs d'extrême droite parce que c'est quelqu'un de cultivé. Enfin, on connaît les codes. Quand on fait l'éloge de Jacques Bainville, qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais enfin qui était un des philosophes de l'extrême droite du 19e siècle, on pense à Charles Maurras, on pense à Édouard Drumont et on pense à des gens qui ont inspiré l'extrême droite française et européenne du 20e siècle.
Alors, on pour vous, les bornes, c'est bon. Où
mais les
parce
bornes,
que quand vous entendez, bornes, par exemple, un Laurent Wauquiez, il n'a pas l'air de mettre la borne avant Sarah Knafo.
Vous avez raison, mais c'est un désaccord que j'ai avec lui, des nombreux désaccords que j'ai avec lui. Mais pour moi, les choses, elles sont très simples. Que ceux qui ont envie de faire cette alliance-là la fassent. Le temps du schisme est arrivé, on va arrêter de faire semblant. Moi, je dis juste qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes de bonne volonté qui pensent qu'on peut rétablir l'ordre dans ce pays. Je peux en témoigner, je l'ai fait à mots. Bon, qu'on rétablit l'ordre et que d'autre part on assume le progrès. Voilà, c'est-à-dire que d'un côté on est ferme sur la sécurité, sur l'immigration.
Le temps du schisme est arrivé, bah, dites-vous.
Bah, enfin, évidemment. Et à partir du moment, vous avez un
problème. Enfin, vous êtes l'homme de la coque, vous êtes l'homme de ce moment fou.
Si je peux
fou.
Me permettre,
pardon,
je suis pas,
mais
pardon,
vous
je suis
êtes
pas que ça.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se souvient quand même de ce moment phénoménal de scission, pour le coup, de schisme, de violent schisme, en quelque sorte, qui a été le début du naufrage de votre famille, et vous vous dites aujourd'hui on en est
encore là. Non, c'était pas le début du naufrage. Alors là, excusez-moi, mais comme vous êtes journaliste politique, vous connaissez bien l'histoire politique de notre pays et l'histoire de la droite. Je rappelle que ça a été une confrontation d'hommes électorale qui a été très violente. Mais d'abord, ni Fillon ni moi n'avons jamais eu la moindre tentation d'alliance avec l'extrême droite. C'était un marqueur majeur. Et deuxièmement, en 2014, c'est-à-dire 2 ans après ce que vous appelez la guerre Copé-Fillon, à juste titre, c'était une vraie bataille d'hommes et de pouvoir, au sens noble du terme. Il y a eu une élection municipale que j'ai organisée en tant que président de l'UMP de l'époque. Nous avons fait la vague bleue la plus importante de toute l'histoire de la droite française depuis 1947. 70% des villes de plus de 9000 habitants sont passées à droite et nous étions préparés pour la présidentielle. Est arrivée ensuite une affaire tragique, l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy, la fameuse affaire Big Malion, à l'occasion de laquelle, comme j'ai été mis en cause de manière anormalement violente, j'ai décidé de démissionner pour ne pas prendre en otage la droite, avant quelques mois après d'être totalement innocenté par la justice. Voilà, c'est la vie, peu importe.
Mais c'est important qu'on se rappelle ça.
Puisque vous m'en parlez,
bien
aller jusqu'au bout.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui,
que la droite française, elle continue d'exister. Ce sont des millions de gens qui veulent de l'ordre et du progrès, qui considèrent qu'on doit être capable de gouverner la France de manière responsable.
Mais avec, pour ça, vous invitez
sans aller avec
ceux
l'extrême
qui sont,
droite.
Vous invitez Jean-François Copé ce matin, ceux qui sont dans l'ambiguïté, à quitter officiellement ce qui reste de LR et à ce que le schisme soit
d'accord,
clair.
D'accord, je pense qu'ils sont pas dans l'ambiguïté. Je pense que dire, concevoir l'idée qu'on puisse faire une alliance avec Zemmour, parce que Knafo, c'est Zemmour, c'est quelque part accepter l'idée d'une alliance contre nature avec des gens qui en réalité pensent des choses qui ne sont pas les mêmes que nous. Voilà, c'est tout. C'est quand même un acte qu'il va bien falloir trancher. Où on est dedans, où on est dehors. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit moins nombreux, mais qu'on soit cohérent, parce que ça veut dire qu'on arrête de mentir aux gens. Et moi, je pense que ce qui tue aujourd'hui les partis de gouvernement, c'est de ne pas assumer que on peut pas mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'un litre. Que si on baisse pas les dépenses publiques, que si on réforme pas la fonction publique, que si on joue pas, si on modifie pas les retraites, ben forcément, il y a un moment où on coule, et c'est tout l'enjeu de l'hypocrisie de Madame Le Pen.
Merci Jean-François Copé d'avoir répondu à mes questions ce matin, maire de Meaux et candidat d'ailleurs à votre réélection. Il est 8h48 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-François Copé, le vrai, mon invité ce matin, est resté avec nous. Rebonjour Jean-François Copé. Et son collègue, les Républicains, Laurent Wauquiez tenait d'ailleurs à lui adresser quelques mots.
Oui, bonjour à tous, bonjour à Jean-François. J'ai entendu Jean-François dire que nous avions de nombreux désaccords. Mais j'aimerais dire au-delà que j'aime Jean-François.
C'est ça.
Parce que Jean-François a de nombreuses qualités. Franchement, quel pianiste.
Oui, c'est vrai que Jean-François Copé est un excellent pianiste.
Oui, et j'assume d'être la groupie du pianiste. Vous n'avez jamais entendu jouer mon ami Jean-François avec l'Orchestre Philharmonique de Pau, ma chère Apolline?
Non.
Non? Eh bien, c'est normal parce qu'il n'y a pas encore d'Orchestre Philharmonique à Pau.
Pardon,
c'est l'obsession Bérou. Non, il y a juste la fanfare des Amis du Bris.
Ah oui.
Et il n'en a que plus de mérite, Jean-François. Parce que croyez-moi, jouer du piano debout en suivant une fanfare dans les rues de Meaux, même sur un piano à roulettes, il faut du talent.
C'est Woody Allen qui a fait ça avec sa contrebasse.
Tout à fait. Et vous savez, vous avez déjà entendu les créations, que dis-je, les œuvres de Jean-François. Vous les avez déjà entendues?
Votre ami Jean-François.
Oui, vous les avez déjà entendues?
Non.
Mais si. Dans les ascenseurs Otis, dans les parkings Vinci, dans le répondeur des mutuelles du Mans. Hein, si, toutes ces musiques, c'est de lui. Vous ne me croyez pas, Pauline? Bon, tant pis. Bon, tant pis, comme sa marque de piano. Et oui, parce que chez la LR, vous voyez, chacun ses talents. Lui, c'est le piano, moi, c'est le pipeau. Et l'humour.
Merci Laurent Wauquiez. Nicolas Sarkozy voulait également vous saluer, Jean-François Copé.
Hey, bonjour Jean-François. Je connais bien
On a dirigé les Républicains, lui et moi. Jean-François, maintenant que c'est derrière nous, on peut le dire. C'était pas une mince affaire. Qu'est-ce que c'était chiant. Franchement, ils sont gentils, mais il y en a certains, fallait les gérer. Je peux pas dire les noms, mais Jean-François le sait, et c'est très bien de qui je parle. Laurent Laparca Rouge, Christian les gros sourcils qui est de chez toi. Franchement, c'était quelque chose. Mais enfin, on peut pas tout dire quelque part. On est prisonnier du politiquement correct. D'ailleurs, il pourrait écrire le journal d'un prisonnier de l'UMP.
Voilà. Il est merci, Monsieur Sarkozy. Allez, tout de suite, on retrouve notre ami Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, Apolline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la voix peut couvrir le bruit d'une déneigeuse. C'est parti pour les titres. Misogynie, le député insoumis Carlos Bilongo a déclaré dans une interview que Rachida Dati avait couché pour réussir. Éric Ciotti tenait à réagir.
Oui, écoutez, non, franchement, c'est honteux. C'est honteux, cette déclaration de la part de ce député de Mani Dibongo. Non, les temps ont changé, Jean-François. Le sait aujourd'hui, en politique, plus personne ne couche pour réussir. Alors, c'est d'ailleurs, je le note, presque l'inverse. Voyez, moi, il a fallu que j'attende de réussir pour pouvoir coucher.
Monsieur Ciotti. Bon, reprenez, Thibault.
Oui, et puis Neige, plusieurs envoyés spéciaux de BFM et d'RMC après deux jours passés dans le froid ont demandé leur mutation vers des régions plus hospitalières comme la Syrie, l'Iran ou Gaza. Et Neige toujours, le ministre des Transports Philippe Tabarot a critiqué les défaillances de Météo France dans cet épisode neigeux. On remercie donc la neige qui nous a permis de découvrir que Philippe Tabarot était notre ministre de l'Intérieur, des Transports. On retrouve tout de suite la procureure de Paris, Laure Bécouot, pour une conférence de presse.
Oui, c'est normal. Mesdames, messieurs. Donc, suite à la plainte du ministre des Transports, j'ai bien évidemment ouvert une enquête. Et d'après les premiers éléments, il semble que l'auteur des chutes de neige soit un certain Mathéo. C'est mal écrit. Déjà connu des services de police pour des faits similaires dans les Alpes et Pyrénées. Il aurait donc agi avec un complice connu sous le nom de Mercure, le nom de code, je ne sais pas, et aurait déjà refroidi de nombreuses victimes à l'arme blanche.
Et tiens, pendant qu'on vous tient, Madame Bécuot, je suis très contente de vous recevoir, ça avance l'enquête sur les bijoux du Louvre?
Arrêtez de m'emmerder avec les bijoux. Nous avons néanmoins, puisque vous insistez, une nouvelle piste, puisque l'une des couronnes des dérobés aurait été aperçue dans une boulangerie en compagnie d'une galette. Mais arrêtez, monsieur Marchal, je ne dirai rien de plus, je fais comme les bus d'hier, je rentre au dépôt.
Ah, c'est ça, merci Laure Bécuot. La mobilisation agricole qui continue malgré les interdictions et les conditions climatiques, on retrouve tout de suite le leader agricole, Jérôme Bail.
Oui, écoutez, madame, bon, je salue monsieur Marchal, c'est le monde à l'envers, le but c'était quand même de bloquer les routes avec nos tracteurs, et avec cette putain de neige, maintenant c'est les voitures qui nous bloquent, c'est les voitures qui nous piquent notre opération escargot à nous, et on est baisé, voilà, moi je le dis, pareil avec les tronçons d'autoroute, Mme Balherbe, nous on voulait bloquer la circulation en faisant tout brûler, les pneus, les palettes, le fouet, la paille. Mais en fait, avec cette putain de neige, c'est sur nos tronçons que ça roule le mieux maintenant, parce que en brûlant tout, on a tout fait fondre. Donc je vous dis, on est baisé de partout, donc on rentre à la maison. Gisèle, charge-le 3 tonnes de paille. Non, à la main, Gisèle, putain.
Merci Jérôme Bail d'avoir été avec nous. Un mot de sport, Nelson Montfort. Bonjour Nelson.
Bon et bonjour ma chère Apolline. Bonjour cher Jean-François, très très cher Jean-François, excessivement cher Jean-François. Écoutez, vous le savez, les Jeux Olympiques de Turin démarrent dans à peine un mois et nous avons le plaisir de voir les équipes d'RMC qui sont totalement mobilisées.
Oui, c'est vrai qu'on est mobilisés quotidien pour vous faire vivre la compétition.
Ah non, 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 plus que ça, ma chère Apolline. Les journalistes RMC sont mobilisés pour gagner. En effet, j'ai vu en arrivant la très, très belle prestation de l'économiste Emmanuel Le Chypre pour traverser le pont du Garigliano avec un double accept, un triple bouple qui piquait, réception sur le coccyx. Oui, attention, Apolline, ne pas glisser. Ce n'était pas parfait sur le plan technique, mais 10 sur 10 pour l'artistique. Bravo à tous, Apolline, pour sa magnifique, son magnifique Apolline numéro 2 danse sur glace devant l'entrée d'RMC avec une réception quasiment contrôlée dans la baie vitrée. Je n'oublie pas non plus Élise Dangean venue en bobsleigh, sans bobsleigh, directement le cul dans la neige avec une glissade de près de 342,60 m. Et bien sûr, mention spéciale, ma chère Apolline, pour l'équipe de vigile d'RMC. Il fallait voir, mon cher Alain Marchal, il fallait voir leur splendide coup de balai pour enlever la gadoue devant l'entrée de notre radio afin d'éviter que la direction se la salope les pompes. Des images qui laissent augurer de grandes chances de victoire au curling. Bravo à RMC, Radio Mocassin et curling.
Merci Nicolas Cantou, merci à Jean-François Coquet d'être resté avec nous. Dans merci un instant, les GG, les grandes gueules de 9h à midi, on parlera du blocage de Paris par les tracteurs. Le président de la coordination rurale sera avec nous. On évoquera aussi le monde du cinéma. Peut-être que le titre pour le monde du cinéma, c'est le mépris vis-à-vis des obsèques de Brigitte Bardot. Et puis on s'intéressera au tarif Ouigo qui ne cesse d'augmenter. Voilà, venez discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Charles Consigny sera là, tout comme l'avocate Chirine Ardakani. Et puis nous serons avec la coach de Visuel Dagossieri.